Vous êtes sur RTL.
C'est une exclusivité de la rédaction d'RTL. Le coordinateur de l'enquête du 13 novembre prend la parole pour la première fois aujourd'hui sur votre radio. Les doutes, les surprises, mais aussi les réussites d'une enquête incroyable menée par la DGSI, nos services de renseignement extérieur, au micro de Thomas Proutot à 8h20. Auparavant, Alba Ventura aura reçu l'avocat de Charlie Hebdo et de la jeune Mila, Richard Malka. Il publie chez Grasset Le droit d'emmerder Dieu. C'est en l'occurrence l'intégralité de sa plaidoirie au procès de Charlie Hebdo. Autre curiosité, voire réelle inquiétude, celle des fameuses algues vertes. À ce stade, on peut parler de mystère. À quel point sont-elles toxiques après la mort de deux chiens en 24 heures? Virginie Garin fait le point dans sa brigade à RTL à 7h15. Enfin, dernier rendez-vous d'éclairage d'actualité. La France vient de découvrir à ses dépens la fermeté de Joe Biden dans sa vision des relations internationales. À 7h20, le spécialiste Corentin Célin nous dira pourquoi et comment il faut décrire le monde selon Biden. Il se résout clairement aujourd'hui à un affrontement entre la Chine et l'Amérique. Et puis comme cela vous concerne tous, sachez qu'à 7h35, François Langlais détaille l'envoi volée des prix du gaz, elle est mondiale. Il n'y aura pas de retour en arrière sur les énergies fossiles, nous expliquera notre spécialiste économique. Bref, nous allons vivre une matinale d'infos passionnante. Très bonne journée à l'écoute d'RTL. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, les hôpitaux de la région de Mulhouse débordés par les personnels anti-vax.
169 salariés suspendus et des services qui ne tournent plus. Les opérations sont reportées, le plan blanc est déclenché. Comment l'enquête sur le 13 novembre a empêché d'autres attentats en France? Le chef des investigations à la DGSI témoigne sur RTL pour la première fois. Et c'est donc une plongée rare au cœur de l'antiterrorisme français que vous entendrez dans quelques instants. Dans ce journal également, la promenade mortelle de deux chiens bretons, leur seul point commun, avoir couru sur la même plage infestée d'algues vertes. Et puis les sorties nocturnes de deux moines pyromanes allergiques au progrès, ils ont incendié des antennes relais 5G à côté de leur couvent intégriste.
La politique, Olivier Boss.
Et revoilà la réforme des retraites. Oui, je vous assure.
Il ne manquait plus que ça, et ça sera dès la fin du journal.
RTL Matin.
La région de Mulhouse, dans le Grand Est, avait été, on s'en souvient, l'une des plus touchées par la première vague de Covid il y a un an et demi et par la saturation des établissements de soins qui en avaient découlé. Eh bien, on apprend donc ce matin qu'à nouveau, malgré l'amélioration de la situation sanitaire, les 10 hôpitaux du secteur sont débordés. Bonjour Samuel Goldschmidt.
Bonjour.
Alors, ce n'est pas le Covid qui flambe, mais le nombre de suspensions des personnels soignants non vaccinés.
Oui, les effectifs sont trop serrés pour gérer le travail depuis l'obligation vaccinale. 170 salariés non vaccinés ont été suspendus depuis mercredi dernier, sur un total de 6000. Entre ces suspensions et l'absentéisme, le groupe hospitalier se voit contraint de geler les congés, rappeler éventuellement du personnel en vacances et reprogrammer toute une série d'interventions pour tenter de surnager. Le vrai problème, c'est que le sous-effectif est chronique à Mulhouse depuis bien avant le Covid. À l'été 2019, par exemple, les urgences étaient en grève. Il n'y avait plus que 7 médecins sur 26 postes à pourvoir, on se passait le mot dans le petit monde médical sur les mauvaises conditions de travail localement. Enfin, alors que le Haut-Rhin avait été le plus touché lors de la première vague, le département est aujourd'hui à la traîne pour la vaccination, particulièrement autour de Mulhouse.
Merci beaucoup Samuel Goldschmidt. La quatrième vague est maintenant derrière nous. Moins de 7000 cas chaque jour recensés en moyenne au cours de la semaine écoulée. Faut-il lever en partie les contraintes liées au pass sanitaire, notamment dans les 40 départements repassés sous les seuils de vigilance? La question sera abordée ce matin au Conseil de Défense.
Il est donc 7h02, un témoignage rare ce matin sur RTL, celui d'un enquêteur de la DGSI.
Oui, il est celui au sein des services secrets français qui a coordonné l'enquête après les attentats du 13 novembre. Il sera amené à témoigner au procès et il parle ce matin publiquement pour la première fois sur RTL. C'est Thomas Proutot à qui il s'est confié.
La première satisfaction qu'on a eue, c'est de pouvoir entraver les individus, les auteurs qui se sont enfuis. Mais certains, et notamment en Syrie, participaient à d'autres affaires. La satisfaction pour la DGSI, ça a été d'entraver d'autres projets qui étaient menés par ces mêmes personnes. Ça a été de constater que l'essentiel des membres de cette structure a été tué. Et donc c'était de pouvoir réussir à éviter d'autres morts à travers notre action. Comme je vous le dis, notre premier métier, c'est aussi d'éviter que ces individus qui sont des criminels puissent terroriser les gens dans nos rues, faire qu'on craigne de sortir, de vivre normalement. Et ça, c'est ce pourquoi on se bat.
Document RTL signé Thomas Proutot, le témoignage rare de cet enquêteur des services secrets français. Vous le retrouvez en longueur tout à l'heure à 8h20 et sur le site internet également d'RTL.
Et maintenant cette question, deux chiens sont-ils morts il y a 10 jours en Bretagne à cause des algues vertes?
Leur seul point commun en tout cas à ces deux animaux en pleine santé, c'est d'avoir fait une promenade sur la plage de Plestin-les-Grèves dans les Côtes-d'Armor, infestée par les algues vertes. ouverte. Ils ont suffoqué quelques heures plus tard, comme l'explique Juliette, qui est la propriétaire de l'un de ces deux chiens.
Il est rentré de promenade et là, ça a été très rapide. Il titubait, il a beaucoup vomi, il a fait une hémorragie interne et il est mort en à peine 2 heures. Ça a été très violent. Ma conviction, je sais que c'est les algues.
Oui. Et les analyses vont être menées en laboratoire pour confirmer ou non cette hypothèse. On revient sur ce feuilleton dramatique des algues vertes. Elles prolifèrent à nouveau en cette rentrée sur les plages de Côte d'Armor. On y revient avec la brigade RTL juste après ce journal à 7h15.
Et décidément, il n'y a pas que l'ego français qui a été blessé dans l'affaire des sous-marins australiens. Des dizaines d'entreprises sous-traitantes concernées par le contrat du siècle sont inquiètes. On vous explique tout cela dans un instant sur RTL. Merci de nous être fidèles. À tout de suite.
RTL Matin.
RTL 7h06, la suite du journal d'Olivier Bois. Avec la perte du contrat des sous-marins, des entreprises françaises se retrouvent en fait en difficulté.
Olivier. Oui, près de 400 entreprises avaient reçu des commandes en sous-traitance. Parmi elles, Jeumont Électrique dans le Nord, qui avait déjà largement investi d'ailleurs pour fournir les systèmes de propulsion des sous-marins, Franck Hanson.
Oui, c'est un contrat sur lequel ce groupe industriel nordiste travaillait depuis 2013. 30 ans de boulot assuré. Alors, la volte-face des Australiens est toujours commentée à la sortie de l'usine.
C'est pas réglo de leur part, quoi. Pas dire que ça fait pas mal. Hein.
Les bureaux d'études, les ateliers de Jeumont Électrique s'étaient déjà mobilisés sur ces moteurs de sous-marins. Florian Brasseur, délégué CGT, est plutôt inquiet.
Et on avait déjà commencé aussi dans les ateliers à faire le prototype à terre. Ouais. Les 12 sous-marins étaient étalés sur 30 ans. Ça devait créer de l'emploi. C'est vraiment dommage pour l'emploi dans le bassin de la Sambre.
L'entreprise a malgré tout d'autres commandes dans le naval militaire pour compenser cette perte, confie Brahim Amar, directeur général du groupe.
Ça fait une perte, certes, mais ça ne devrait pas impacter l'entreprise dans sa structure sociale. Ça touche les image de l'industrie française.
Ouais. Un CSE est organisé aujourd'hui pour évoquer à nouveau ce contrat du siècle qui s'est envolé.
Merci Franck Hanson. Et on comprend mieux pourquoi la France parle depuis le début de trahison. Paris brandit aujourd'hui un courrier signé des Australiens qui confirme le programme. Courrier reçu le 15 septembre, quelques heures seulement avant le revirement spectaculaire.
En effet.
En bref, les scènes de panique ce matin à Melbourne en Australie. Un tremblement de terre a frappé la région. Les immeubles ont tremblé. On voit les images de ces gens sortir complètement affolés dans les rues. Le Premier ministre affirme qu'il n'y a pas de victimes recensées à cette heure.
Mais on en vient à cette histoire hallucinante des moines pyromanes arrêtés en flagrant délit.
Oh oui, c'était la semaine dernière à Villiers-Morgon dans le Beaujolais. 2 moines intégristes arrêtés en pleine nuit en train d'incendier une antenne relais 5G. Ils sont depuis mis en examen, Frédéric Perruche.
C'est peu dire que la nouvelle a rapidement fait le tour de la petite communauté. 20 moines capucins réfractaires au progrès traditionnaliste qui vivent tranquillement dans ce couvent de Villiers-Morgon à quelques mètres des vignes. Frère Jean-Marie fait office de porte-parole.
On condamne et c'est une erreur monumentale. Ils n'auraient jamais dû faire cela. Ils ont fait ça d'eux-mêmes et ils le regrettent maintenant, je pense. Il n'y a pas de volonté de s'insurger contre les antennes relais. Non, ce n'est pas notre combat.
Installé depuis une quarantaine d'années derrière d'imposants murs en pierre, c'est religieux n'avaient jamais fait parler d'eux, selon le maire de Villiers-Morgon, Thierry Lamure.
Personne ne s'est jamais plaint de nos moines de Morgon. À chaque fois qu'on les croise, il n'y a aucun souci. Ils ne participent pas directement, on va dire, à la vie de la commune ni à la vie associative. Mais franchement, je ne les voyais pas incendier une antenne. Ça paraissait pas le genre de la maison, en effet.
Les deux religieux ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire, mais les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour vérifier s'ils sont impliqués dans d'autres affaires similaires.
Merci beaucoup Frédéric Perruche.
C'est une exposition exceptionnelle hein, qui s'ouvre aujourd'hui à la Fondation Louis Vuitton à Paris.
Oui, la collection Morozov, du nom de ces deux frères russes qui ont accumulé à la fin du 19e siècle les plus grands chefs-d'œuvre de Monet, Van Gogh, Cézanne ou Renoir, 200 tableaux en tout. Un trésor qui sort d'ailleurs pour la première fois de Russie. Bernard Arnault en personne, le patron d'LVMH, a convaincu Vladimir Poutine de laisser sortir ces tableaux. Et il raconte d'ailleurs, Bernard Arnault, comment ils auraient pu disparaître, ces chefs-d'œuvre.
Elle a été constituée par un très grand industriel russe qui voulait l'exposer dans un musée. Et sur ces entrefaites est arrivée la révolution russe. Les tableaux ont été saisis et ils ont à plusieurs reprises frisé la destruction pendant la période bolchevique. Ensuite, pendant la dernière guerre mondiale, et ils ont été sauvés grâce à l'ingéniosité des musées russes qui les ont cachés dans certaines régions de Russie.
Et on les remercie évidemment pour ces chefs-d'œuvre. Bernard Arnault au micro de Monique Younes. La collection Morozov est à découvrir donc jusqu'au 22 février prochain à la Fondation Louis Vuitton.
Tous les détails à 9h dans Laissez-vous tenter. Nous retrouvons Monique Younes.
On termine avec un mot de sport. Oui. La 7e journée de Ligue 1. 5 matchs à 19h, dont Lille-Reims ou encore Monaco-Saint-Etienne. Et puis à 21h, Angers-Marseille, Lens-Strasbourg, Lorient-Nice, Lyon 3 ou encore Metz PSG. D'ailleurs, Lionel Messi, figurez-vous, est le forfait pour ce match ce soir au stade Saint-Symphorien. Il est blessé au genou. On suivra toutes ces rencontres dans les journaux et dans les flashs d'RTL ce soir.
Les courses ont lieu à Amiens aujourd'hui.
Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 12, le 4, le 3, le 5, le 6, le 10 et le 13. La dernière minute, c'est le 3.
Et le journal nous était proposé par Olivier Bois. La politique à 7h10 sur RTL avec Olivier Bost. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors c'est pas une plaisanterie, vous allez nous reparler de la réforme des retraites.
Oui, je sais, ça ressemble à une mauvaise blague. Oui. La dernière fois, c'était il y a moins de 3 semaines, Emmanuel Macron avait lancé un ballon d'essai. Fin des régimes spéciaux et retraite minimale à 1000 euros, avant de démentir quelques jours après d'avoir lancé le ballon. Mais figurez-vous qu'hier, à la mi-journée, Emmanuel Macron a réuni plusieurs ministres à l'Élysée. Au menu, la dépendance des personnes âgées, le revenu d'engagement pour les jeunes et les retraites. Et ils ont passé plus de la moitié de la réunion à parler des retraites. Une réforme est bel et bien envisagée et se prépare.
Mais Emmanuel Macron a bien dit que la réforme se ferait quand nous aurions tombé le masque.
Oui, quand l'épidémie serait effectivement largement sous contrôle et quand l'économie irait mieux. Et sur ces deux conditions, comme le rapportait le Figaro hier matin, le feu est en train de passer au vert étincelant, d'après l'entourage du président. Un autre indice, ce matin dans le journal Les Échos, l'économiste qui a participé au programme économique d'Emmanuel Macron en 2017, Philippe Martin, estime que les nouvelles dépenses légitiment la réforme des retraites. Il faudra bien financer toutes ces mesures. Pour l'instant, dit-il, il y a beaucoup de sucré, mais il va falloir un peu de salé.
Donc la réforme des retraites permettra de faire des économies, c'est ça ?
Bah, en tout cas, elle permettra de redonner des gages de sérieux budgétaires, m'a expliqué un conseiller hier soir. Des gages de sérieux pour riposter aux attaques de l'opposition. Les centaines de millions d'euros lâchés chaque semaine par un chef de l'État en campagne ont permis aux Républicains notamment de crier à la gabegie et d'être entendus. Il faut donc leur répondre.
Alors, reste une question importante. De quelle réforme des retraites parle-t-on ?
Eh bien, là, ça brasse encore large. Ouais. Seule certitude, il n'est pas question de revenir à l'usine à gaz du système à points qui avait effrayé tous les Français. Repousser l'âge de départ à la retraite et un minimum à 1000 euros, ça peut se voter simplement dans le budget de la Sécu à la fin de l'année. Une autre hypothèse de travail, plus audacieuse, est aussi sur la table. Il s'agit d'une loi, un projet de loi à l'Assemblée à l'automne. Ça n'irait pas jusqu'au bout, il n'y a pas assez de temps pour le voter, mais ça permettrait de mettre le sujet dans le tube avant la présidentielle. Emmanuel Macron, candidat pour de bon au printemps, pourra dire que les retraites, il s'en occupe et qu'il va continuer à s'en occuper. Il ne sera jamais le premier président à ne rien faire sur le sujet depuis plus de 30 ans. Emmanuel Macron ne laissera pas un trou béant dans son bilan de réformateur. Pour reprendre l'expression de l'économiste Philippe Martin, le sucré, le salé, vous prendrez bien, Yves, un peu de sel pour relever la présidentielle.
Merci beaucoup Olivier Bost. Notre rendez-vous de 7h40 avec Alba Ventura et l'avocat Richard Malka ce matin. Il assure notamment la défense de Charlie Hebdo et de la jeune Mila. Il vient de publier Le droit d'emmerder Dieu aux éditions Grasset.
Yves Calvi, RTL Matin.
Il est 7h13, nous vous en parlions il y a quelques instants dans notre journal de 7h avec Olivier Bois. Deux chiens sont morts en 24 heures sur une même plage des Côtes d'Armor. Leurs maîtres mettent en cause les algues vertes et le gaz toxique qu'elles dégagent quand elles se décomposent. Des sangliers, un cheval et même plusieurs personnes seraient décédées en respirant ces gaz. Pourtant, il y a eu plusieurs plans décidés par l'État pour mettre fin au problème. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Visiblement, malgré les solutions apportées par l'État français, les résultats ne sont pas au rendez-vous.
Hein. Non, et même ça empire puisque des algues sur le sable qui sentent l'œuf pourri, on en voit depuis une quarantaine d'années oui. En Bretagne. Et bien cette année, il y en a 40% en plus qu'une année moyenne dans les baies de Saint-Brieuc et de La Fresnaye. C'est à cause de la météo, des gros orages cet été. Et puis les algues poussent surtout quand elles peuvent se nourrir de nitrates qui proviennent essentiellement des fermes agricoles, des déjections de cochons, de volailles qui servent d'engrais sur les champs. Alors les orages ont lessivé les terres et charrié ces nitrates dans les rivières jusque vers les plages.
Pourtant, on a eu différents et plusieurs plans de lutte contre ces algues.
Voilà, deux plans. En 10 ans, on a demandé aux agriculteurs de moins épandre d'engrais, de ne pas agrandir les élevages. Il y a eu un progrès, une baisse des déjections jusqu'en 2015. Et puis, les quantités ont à nouveau stagné. Ces plans n'ont pas suffi. La Cour des comptes a même épinglé l'État en juillet dernier pour son manque d'action.
Que disent les agriculteurs et que peuvent-ils faire ?
Alors, il y a des solutions technologiques. La Coperle, par exemple, une grosse coopérative, a construit un immense méthaniseur qui transforme le lisier de cochon en gaz, en électricité. Et ce qui reste, quitte la Bretagne, va servir d'engrais dans d'autres régions. bon. Il y a aussi une autre façon de cultiver, ne plus labourer, planter des haies, des cultures qui, avec leurs racines, retiennent l'eau et évitent le ruissellement.
Mais les associations de protection de la nature, elles disent qu'il faut carrément changer de modèle agricole.
Oui, car la Bretagne, c'est la première région productrice de viande. Faut-il élever autant de cochons, de volailles, de bovins sur ce territoire? De la viande qui part souvent à l'exportation, la Coperle, justement, exporte un tiers de ce qu'elle produit. Tant qu'il y aura autant d'élevage, disent les protecteurs de la nature, il y aura des nitrates et donc des algues sur les plages de Bretagne.
40% en plus qu'une année moyenne, nous disiez-vous il y a quelques instants. Merci beaucoup Virginie Garin pour toutes ces explications. Dans un instant, le monde découvre la fermeté de Joe Biden. Le président américain a pointé du doigt après le cafouillage sur la vente des sous-marins français à l'Australie. Éclairage dans un instant avec le spécialiste Corentin Sellin.
RTL Matin. Avec Yves Calvi. RTL Événement.
Il est 7h18. Bonjour Corentin Sellin.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes professeur agrégé d'histoire et spécialiste des États-Unis. Nous avons besoin de vous pour comprendre un peu plus clairement les intentions internationales du président Joe Biden. Nous étions habitués à la fougue, aux tweets vindicatifs de Donald Trump avec des moments absolument hallucinants. Et on se retrouve avec un Joe Biden plus calme en apparence, mais tout autant bille en tête. Le président américain qui refuse une nouvelle guerre froide, qui prône le multilatéralisme. Mais on a l'impression, comme Donald Trump, qu'il privilégie l'Amérique, America's First, disait Trump. Est-ce qu'il est en train d'éluder l'Europe parce qu'il n'y voit plus tout simplement d'intérêt?
Oui, je crois qu'on peut distinguer deux choses. D'une part, Joe Biden est en train de confirmer en effet que la première priorité de la politique étrangère états-unienne, c'est le Pacifique et surtout contrecarrer la montée en puissance de la Chine. La Chine qui veut vraiment rivaliser désormais avec les États-Unis pour l'hégémonie sur le Pacifique, puis sur le monde. Et vraiment, c'est là que ça se passe pour les États-Unis maintenant, beaucoup plus que dans la zone Atlantique Europe. Mais ça n'empêche pas, d'autre part, Joe Biden, et c'est là où il faut nuancer peut-être, d'être beaucoup plus soucieux de ses alliés que Donald Trump pour le grand combat qu'il a encore répété hier aux Nations Unies en faveur de la démocratie. Et là, il y a peut-être une petite contradiction chez Joe Biden, c'est-à-dire qu'il a besoin des alliés pour mener ce grand combat global en faveur de la démocratie, et en même temps, il mène une politique conforme aux intérêts états-uniens qui est de réorienter, de faire pivoter, comme on dit, la politique étrangère des États-Unis vers le Pacifique et contre la Chine pour contrecarrer la montée en puissance chinoise.
Donc le réel enjeu du siècle pour Joe Biden, c'est la Chine, mais où il met la démocratie dans tout ça? Parce que c'est réunir le camp des grandes démocraties, ou c'est essayer d'imposer ou d'infléchir la politique chinoise?
Alors, précisément, c'est peut-être là qu'est la contradiction. Car hier, dans son discours, Joe Biden est resté très flou sur les moyens pour promouvoir la démocratie. Il a dit « Nous allons faire de la diplomatie sans arrêt, sans relâche », a-t-il dit. Oui, mais et la force militaire ne sera qu'un moyen de dernier recours. Oui, mais justement, on voit bien que face à des puissances non libérales, non démocrates comme la Chine, qui se réarme extrêmement vite, qui montre vraiment des appétits de puissance. La diplomatie, la discussion diplomatique ne peut pas être un simple moyen. Et par ailleurs, ce qui s'est passé en Afghanistan le montre bien. Les États-Unis se sont retirés militairement. Les talibans mettent en place un régime qui, on doit bien le dire, n'a rien de démocratique. Et certes, discuter, faire de la diplomatie, pourquoi pas, mais comment faire sans des leviers de puissance, et des leviers de puissance militaires en particulier? Et là, on touche peut-être à une contradiction de la politique étrangère de Joe Biden.
Une toute dernière question, alors reconstruire des alliances, j'ai envie de vous dire, c'est mal parti avec l'Europe et en particulier la France. On a la preuve maintenant que le 15 septembre, je dis bien le 15 septembre, les commandes de sous-marins français étaient confirmées par écrit.
Oui, alors effectivement, ça, il y a une très mauvaise manière, il y a vraiment quelque chose qui, comme cela a été dit, ne se fait pas entre alliés. Ouais. Les États-Unis ont tout fait pour savonner la planche du contrat français avec l'Australie et pour réorienter les intentions stratégiques de l'Australie, justement, vers les États-Unis, vers une alliance pacifique contre la Chine. Et le problème, c'est qu'on voit bien que ça ne veut pas dire que la France n'est plus un allié pour Joe Biden, ça veut dire que les alliés principaux, c'est les alliés aujourd'hui dans la zone pacifique qui peuvent aider à freiner la Chine et pas forcément les vieux alliés européens sur un front qui est désormais secondaire pour Joe Biden, puisque plus loin de la Chine, va-t-on dire.
En tout cas, vous êtes parfaitement clair. Merci beaucoup, Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire. L'Amérique est obsédée par la puissance chinoise et nous sommes aujourd'hui au second rang de ses préoccupations. Très bonne journée à vous. Merci d'avoir pris la parole ce matin sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h22, c'est l'heure de notre pépite musicale. Bonjour Steven Bellery.
Bonjour à tous.
Il y a 6 ans, jour pour jour, un tribunal de Californie a fait entrer dans le domaine public l'une des chansons les plus connues au monde.
Et oui, et on la chante tous régulièrement. Ah. Il s'agit de... Happy Birthday to You, traduite dans le monde entier. Mais saviez-vous que pendant plus de 80 ans, cette air était protégée par le droit d'auteur? On l'a donc peu entendu dans les films, les pubs ou les spectacles. Cette comptine a été créée en 1893 par deux sœurs, Mildred et Patty Hill. L'une était institutrice et l'autre directrice d'une maternelle dans le Kentucky aux États-Unis. Probablement inspirée par les ritournelles folk, les sœurs Hill ont inventé un chant d'accueil aux élèves, Good Morning to All. Le texte et sa partition sont publiés dans un livret de chants et le morceau est devenu populaire dans les écoles américaines. Les mots ont évolué avec le temps et sur le même air, la variante Happy Birthday to You s'est imposée comme le chant d'anniversaire, version imprimée dès 1922 dans les recueils. Une comédie musicale s'en empare, on l'entend même dans le premier télégramme chanté en 1933. La troisième sœur Hill, Jessica, se lance alors dans une bataille juridique qu'elle remporte. Le copyright a rapporté jusqu'à 2 millions de dollars par an. Peu d'artistes se sont donc amusés avec cette chanson pour ne pas avoir à payer. Quelques interprétations ont traversé toutefois le temps. Marilyn Monroe a offert la plus suave, mai 1962, pour les 45 ans du président Kennedy.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
Plus musclé, 1963, Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs.
Happy birthday to you. Happy birthday.
La même année, les Beatles célèbrent les 5 ans d'une émission de la BBC.
Happy birthday to you. Happy birthday.
En 1981, Stevie Wonder réinvente l'air, accélère le tempo et en fait un manifeste pour que l'anniversaire de Martin Luther King devienne une fête nationale.
Merci beaucoup Steven Bellery. Je vais enquêter pour savoir s'il reste une des sœurs Mildred à laquelle je puisse aller faire du charme dans son EHPAD, parce qu'à mon avis, il doit y avoir quand même quelques droits d'auteur qui sont tombés. Merci beaucoup Steven. On retrouve maintenant les grosses têtes de Laurent Ruquier et le point détaillé de la météo. Ce sera dans un petit instant avec Louis Bonin.
RTL Matin.
15h30, 18h, notre rendez-vous quotidien avec les grosses têtes sur RTL et Laurent Ruquier avec toute son équipe. On rit, on se détend et on apprend aussi beaucoup de choses.
Pouvez-vous me dire quelle erreur on commet à chaque fois qu'on parle du taux d'alcoolémie?
C'est sémantique.
Ah oui, c'est sémantique.
Donc c'est pas alcoolémie ou c'est pas taux?
C'est-à-dire?
Ah bah le taux c'est quoi?
C'est un pléonasme.
C'est un pléonasme.
Ah, voilà. C'est une très bonne réponse d'Isabelle Mergault et de Florian Gazan.
Je comprends pas, Laurent.
L'alcoolémie, c'est déjà un taux.
C'est déjà un taux.
Donc on ne doit pas dire taux d'alcoolémie.
Sinon,
doit
ça
dire
fait toto.
Taux d'alcool ou alcoolémie, mais pas taux d'alcoolémie.
Mais ça fait 50 ans que tout le monde fait l'erreur.
Mais c'est une erreur.
Oui, c'est comme quand on dit au jour d'aujourd'hui.
Ah oui,
aujourd'hui, ça veut dire jour. Déjà, il y a un jour dans aujourd'hui. Alors, au jour d'aujourd'hui, ça veut dire le jour de ce jour de 8. Surtout que 8.
Je vais prendre une douche, là.
Déjà, 8, ça veut dire jour. Alors, aujourd'hui, ça veut dire.
Il y a tout le premier rang qui atteint du variant Mergault.
Oh là là.
Autant vous dire qu'on les retrouve avec grand plaisir dès 15h30. Louis Baudin, c'est le premier jour de l'automne.
Hein. Oui, et c'est le premier jour où on retrouve d'un temps sec et ensoleillé depuis plusieurs jours. Hein. On n'a plus de précipitations ce matin sur la France. On a même un ciel qui est presque totalement dégagé, presque parce qu'il y a quelques brouillards ici ou là, un peu moins que prévu d'ailleurs, qui vont vite se dissiper cet après-midi. Soleil pour tout le monde, petit voile nuageux dans la moitié nord sans conséquence, puis des températures très homogènes. Alors c'est un peu frais ce matin, hein. Souvent moins de 10 degrés dans la moitié nord, mais 20 à 23 degrés au nord comme au sud cet après-midi, et puis 25 à 28 degrés même près de la Méditerranée.
Formidable, merci Louis Baudin, RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 22 septembre, premier jour de l'automne donc. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous et avant toute chose, le coup de chance de la semaine. À Toulon, une grosse vénarde a gagné successivement au Keno, puis au loto. Tout ça en 48 heures seulement, si, si. Vous vous en doutez, elle préfère rester anonyme, mais Lucille Bess a pu joindre la patronne de son bar tabac, le Montfaron.
Le dimanche, elle a joué ses jeux de Keno. C'est une joueuse de Keno et elle a gagné 6000 euros. Elle s'est dit, tiens, je vais peut-être les jouer au loto, mais elle ne fait jamais de loto en général. Et le soir, elle gagnait 6 millions d'euros. Donc, je ne dis pas dans l'état où elle était sûrement, elle raconte ça. Je pense que quand c'est votre jour de chance, c'est votre jour de chance. Hein. C'est comme ça, hein. 6 millions d'euros, c'est énorme. Parfois, on a une vie de buraliste pendant 20 ans et on n'a pas ça, quoi. Ça fait rêver.
C'est sûr,
oui,
ça
donc,
fait rêver.
Surtout c'est le 6 qui est sorti deux fois, hein, vous avez compris.
Oui, 6 millions. Jouez le 6.
On vous laisse réfléchir. Emmanuel Macron va-t-il lever l'obligation du pass sanitaire dans certains départements? Un conseil de défense sanitaire se tient ce matin à l'Élysée.
Hein. Dans 41 départements, le taux d'incidence est retombé en dessous de 50 pour 100 000 habitants, mais la prudence reste de mise. Et d'ailleurs, les départements eux-mêmes ne sont pas forcément demandeurs. C'est ce qui ressort de l'enquête que vous avez menée, Virginie Garin.
Voilà, 8 départements seulement veulent un assouplissement rapide des mesures et encore, ils ne veulent pas la suppression du pass sanitaire partout, mais par exemple pour s'installer une terrasse. La Somme, la Nièvre, la Sarthe, l'Orne ou le Maine-et-Loire aimeraient que ce matin Emmanuel Macron fasse un signe, qu'il donne une date à partir de laquelle pourront être assouplies les mesures, mais la majorité des présidents de département soit ne répondent pas, on les sent un peu mal à l'aise, on sait le débat sensible que représente le pass, soit proposent d'attendre encore un peu, un ou deux mois, que le taux de vaccination augmente encore, surtout chez les jeunes. Alors le président de la Meuse, où pourtant il n'y a plus qu'une seule personne en réanimation, m'a dit qu'il avait peur, en assouplissant les règles, d'envoyer un mauvais signal, que les gens se relâchent. Donc vous voyez, les élus ne sont pas pressés.
Merci Virginie Garin. Et globalement, la situation sanitaire s'améliore un peu partout. Mais à l'hôpital de Mulhouse, le plan blanc a été déclenché. Manque d'effectifs. Le groupe hospitalier qui emploie 6000 personnes a dû suspendre près de 170 salariés qui n'étaient pas vaccinés, dont de nombreux soignants. Nous vous parlions hier sur RTL de cette nouvelle campagne pour recueillir des témoignages de victimes d'inceste ou de violences sexuelles sur enfants. Deux lignes téléphoniques ont été ouvertes et dès le premier jour, elles ont été débordées. Des centaines d'appels et de courriels en quelques heures seulement, comme en témoigne Nathalie Mathieu, la coprésidente de la commission inceste.
Certaines disent qu'elles ont attendu, qu'elles n'ont jamais parlé, que c'est la première fois qu'elles parlent, avec vraiment l'idée de témoigner pour que ça puisse être utile aux enfants d'aujourd'hui et de demain. Ça, c'est très net dans les témoignages que nous avons reçus, que les enfants ne subissent plus ce qu'elles ont subi et qu'elles soient beaucoup mieux prises en charge.
Propos recueillis par Vincent Serrano. RTL, vous le révélez dès hier, la SNCF renonce à son gigantesque projet de transformation de la gare du Nord à Paris. Elle devait accueillir un vaste centre commercial de quelques 300 boutiques, mais le budget du chantier a triplé et il a pris énormément de retard. Ce chantier, il ne peut plus être terminé avant les JO de 2024. À Rouen, la statue de l'Hôtel de Ville fait polémique. Le maire socialiste aimerait remplacer l'actuelle statue de Napoléon sur son cheval par une statue de l'avocate féministe Gisèle Halimi. L'adjointe Laura Slimani justifie cette décision. Moins de 5% des noms de rue rouennaises portent le nom d'une femme.
L'enjeu, il n'est pas tant de créer une polémique autour de la figure de Napoléon, mais il est surtout de faire en sorte qu'à Rouen, la place des femmes puisse être renforcée dans notre ville, dans notre espace public, et que ça passe pas uniquement par les marges, par des petites rues, mais on souhaite aussi au cœur de la ville, sur une place importante, sur des avenues importantes, il puisse y avoir des femmes qui soient mises en valeur.
Propos recueillis par nos confrères d'M6, reportage à suivre dans le 12h45. Aux Canaries, l'éruption du volcan Cumbre Vieja a déjà forcé plus de 6000 personnes à évacuer et on redoute désormais des émissions de gaz toxiques. Les coulées de lave ont détruit plus de 180 bâtiments, dont une soixantaine d'habitations. Elles descendent vers la côte en emportant tout sur leur passage. L'éruption pourrait durer plusieurs semaines.
On passe au sport, mais qu'arrive-t-il au Biarritz Olympique?
Le club de rugby vient de demander aux instances européennes de délocaliser ses deux prochains matchs à Lille, autrement dit après
presque 1000 km. Une demande étrange, mais c'est que le stade de Biarritz n'est plus praticable. La mairie ne veut plus le financer. Le club est pourtant revenu dans le top 14 cette saison. Il est même cinquième, d'où l'amertume du président Jean-Baptiste Aldigé.
Aujourd'hui, la mairie Biarritz, par exemple, a coupé l'eau et l'électricité dans le stade. Nos joueurs se douchent à l'eau froide. Voilà, c'est notre quotidien. Et sachez qu'au Pays-Bas, il pleut. Donc, on a vraiment besoin de se doucher. Ils ont clairement fait le choix d'avoir du rugby professionnel à Bayonne et du surf, de la culture et du tourisme à Biarritz. Les gens qui décident ont choisi délibérément de nous achever.
Propos recueillis pour RTL par Jean-Michel Rascol.
On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, nous allons tenter de percer le mystère d'Oumuamua, un corps astral qui déchire la communauté scientifique.
Merci Isabelle Choquet. Dans un instant, François Langlais détaille l'envolée des prix du gaz. Elle est mondiale et sans retour en arrière sur les énergies fossiles. C'est ce que va nous expliquer François. A tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Langlais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
L'envolée du prix du gaz, François, pose des problèmes dans toute l'Europe.
Oui, incroyable envolée en effet, qui a vu les cours plus que tripler depuis le début de l'année. Bon, c'est vrai que l'épidémie les avait fait tomber très bas, mais cette semaine, ces cours ont pris sur une seule journée 17%. Alors, tout n'est pas répercuté aux consommateurs, bien sûr, parce que la matière première ne représente qu'une partie du tarif facturé aux ménages. Il y a aussi les coûts de distribution, etc. Mais quand même, en France, le tarif réglementé du gaz a pris 10% en juillet, 5% en août, 8,7% en septembre. En Espagne, les prix d'énergie ont bondi de 35% sur un an. En Italie, ça sera 40% d'ici la fin de l'année. Et en Allemagne, le prix de gros de l'électricité a doublé cette année. Si on raisonne à l'échelle du continent, l'Europe, l'indice Toute énergie a pris presque 16% sur un an. En fait, c'est lui qui explique en large partie la résurgence de l'inflation en Europe.
Mais dites-moi, il n'y a rien à faire contre tout ça?
Chaque gouvernement y va de sa technique. En France, c'est un chèque énergie de 100 euros qui va être versé à plus de 5 millions de ménages pour atténuer la hausse. Au Royaume-Uni, on a carrément bloqué les prix de l'énergie, malgré les récriminations des entreprises qui distribuent gaz, carburant et électricité. En Italie, on baisse les taxes. En Espagne, idem, avec réquisition d'une partie des profits des entreprises énergéticiennes. La mesure fait hurler, vous l'imaginez, au point que les exploitants du nucléaire ibérique menacent d'interrompre les centrales.
Mais comment s'expliquent ces hausses, on va dire, aussi fortes?
La reprise mondiale, tout d'abord, qui est forte, qui est synchrone, qui fait que tous les pays tirent en même temps sur l'offre. Oui. Ça fait monter évidemment les prix. Il y a eu aussi des événements climatiques qui ont contraint la production. Tempête au Texas, absence incroyable de vent en Europe, qui a mis en panne les éoliennes. Et puis surtout le jeu trouble de la Russie, qui est l'un des premiers fournisseurs de gaz en Europe, et qui manifestement limite ses approvisionnements sur le marché, ce qui, là encore, fait grimper les cours.
Que cherche exactement la Russie, pour le coup ?
À établir son pouvoir sur l'Europe, et sur l'Allemagne en particulier. Le gazoduc Nord Stream 2, il est achevé, c'est un gigantesque gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne. Berlin doit donner l'autorisation officielle de le mettre en service, mais on n'attend pas cette autorisation avant plusieurs mois, donc Moscou met la pression.
Est-ce que cette flambée des prix devrait durer ?
Écoutez, c'est tout à fait possible. D'abord, l'hiver n'est pas encore là, mais il va se traduire par une augmentation de la demande en Europe. C'est pas bon pour les prix. Et puis, les sources d'énergie renouvelables ne sont pas prêtes pour prendre le relais des énergies carbonées, qu'il s'agisse du gaz ou du pétrole, pour ne rien dire du nucléaire qui a été abandonné par l'Allemagne et par d'autres Européens. Peut-être l'année 2021 nous a-t-elle fait entrer dans l'ère qu'on annonce depuis si longtemps de l'énergie durablement chère, avec toutes les conséquences que cette transformation aura et sur le pouvoir d'achat des ménages et sur l'activité économique de nos pays.
Et donc je ne doute pas que vous continuerez à nous en parler et à nous informer. Langlais Co avec François Langlais, tous les jours sur RTL. Et il est 7h41, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo, de Mila, inlassable défenseur de la liberté d'expression. Il publie chez Grasset Le droit d'emmerder Dieu.
Ça va grincer dans un instant. Richard Malka sur RTL.
RTL Matin, avec Yves Calvi.
7h43, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin l'avocat notamment de Mila et Charlie Hebdo, Richard Malka.
Bonjour Richard Malka.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RTL. Vous publiez donc Le droit d'emmerder Dieu chez Grasset. C'est votre plaidoirie au procès des attentats de 2015. Attentats, je rappelle, de Charlie Hebdo, Hyper Cacher et Clarissa Jean-Philippe à Montrouge. Vous aviez écrit cette plaidoirie, mais vous aviez dû l'écourter au moment du procès en raison de multiples retards. Et voilà pourquoi vous la livrez cette fois in extenso dans ce recueil. Richard Malka, Le droit d'emmerder Dieu, c'est de la provoque ?
Non, c'est pas de la provocation. J'ai pas de goût particulier pour la provocation. Mon vénérable éditeur, les éditions Grasset, non plus. Mais parfois, il faut quand même bousculer un peu pour être entendu. Et il faut bousculer parce que s'est installée ces dernières années une idéologie, une idée selon laquelle il faudrait respecter les religions. Il faudrait respecter les religions parce que sinon on serait raciste, on serait islamophobe. Il faut respecter les religions parce que sinon on est menacé, on est harcelé, parfois on est décapité, parfois on est tué. Et bien là j'ai voulu dire, et ben non. Il ne faut pas, on n'a pas l'obligation de respecter les religions, c'est un choix, et il fallait le dire avec un titre qui bouscule un peu et qui dise que la critique ne connaît pas le respect, pour citer Renan, qui dise que le cinéma, la littérature, la poésie, la science n'a pas à respecter Dieu, parce que sinon c'est la censure, qui dise cela de oui. manière un peu forte, parce que le temps de la rébellion est venu contre ce discours-là.
Le temps de la rébellion est venu. Vous dites, on peut critiquer les religions. Est-ce qu'on peut insulter les religions ?
Mais bien sûr qu'on peut insulter les religions. Mais qu'a fait Voltaire, Hugo et son anticléricalisme ? Enfin, c'est notre histoire. Nous sommes le peuple qui s'est débarrassé du respect obligatoire à l'égard des religions. Et pourtant, la France est la fille aînée de l'Église, disait-on. Mmh. Et nous avons fait cette loi de 1905. Bien sûr qu'il faut savoir insulter les religions, mais vous savez, les textes religieux eux-mêmes incitent les croyants, parfois à l'irrespect, au dialogue, à la contradiction de Dieu. C'est saint Thomas d'Aquin, c'est Abraham qui se révolte contre Dieu au moment de Sodome et Gomorre en lui disant « Mais quoi, tu veux traiter le juste comme l'injuste et tuer tout le monde ? C'est ça ton droit, c'est ça ta justice ?» Bien sûr qu'il faut savoir interroger les religions, parce que sinon, Dieu voudra tout régenter, toute votre vie.
Et c'est la loi des hommes d'abord.
Au soir.
Oui. C'est la loi des hommes d'abord, c'est ce que vous dites.
Mais c'est la loi des hommes d'abord, et pas la loi de Dieu, et surtout pas la loi de ces porte-paroles autoproclamées qui créent Dieu à leur image.
Mais alors, redescendons un peu sur terre. Alors, vous êtes l'avocat de Charlie Hebdo, vous êtes aussi l'avocat de Mila, cette jeune fille menacée de mort pour avoir proféré des propos jugés insultants sur l'islam. Est-ce que vous pouvez comprendre, vous êtes papa ? Est-ce
non.
que vous... Non, vous n'êtes pas papa. Alors,
c'est
est-ce,
pas
que, est-ce que vous pourriez comprendre ? Non, mais... Un parent qui dirait « Je suis un défenseur de la liberté d'expression, mais si ma fille dit ça, comme ce qu'a dit Mila, je lui aurais mis une baffe. »
Mais non, je comprends
non,
pas du
pas
tout.
Le comprendre.
Mais non,
quand Ségolène Royal critique Mila en disant qu'elle manque de respect, est-ce que c'est
alors Ségolène Royal,
c'est
je la comprends rarement. Ça, c'est en général, mais non, je comprends pas. On met pas des baffes à raison de l'exercice d'un droit, de son libre arbitre, de sa libre critique. Est-ce que les libres penseurs méritent des baffes aujourd'hui ? Mais
cette
question-là elle-même me semble complètement incongrue.
C'est de l'autocensure ? C'est de la peur ? C'est quoi ?
Bien sûr que c'est de la peur. C'est de l'autocensure. On a intériorisé ce discours selon lequel il faudrait respecter les religions. Et vous savez, quand j'entends ça dans les tribunaux, en particulier pendant Mila, de la part de ceux qui l'ont harcelé et menacé de mort, en fait, ce que j'entends, c'est aussi de la peur. Ils disent qu'il faut respecter, mais en fait, ils ont déjà peur.
Un manque de courage.
Oh, c'est un manque de courage. Et puis, c'est l'air du temps. C'est l'époque, c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. C'est intuitivement, on pourrait dire, bah oui, il faut respecter parce qu'on est gentil. Mais non, si vous allez sur ce chemin-là, un jour, vous vous retrouverez à devoir céder toutes vos libertés.
Mais on a l'impression que vous dites que la religion prend trop de place. Il y a 37% des croyants dans notre pays, ça fait beaucoup de gens qui peuvent se sentir concernés.
Mais les croyants eux-mêmes peuvent ne pas avoir à respecter tous les dogmes religieux. Les croyants ne sont pas dénués de sens critique. C'est pas qu'elle prend trop de place, c'est que le discours culpabilisateur sur la remise en cause des dogmes, que l'on avait complètement accepté, intégré, qui ne posait plus de problème, se remet à en poser aujourd'hui. Vous savez, Dieu, c'est comme le roi. Il a besoin de ce que l'on appelle un bouffon, c'est-à-dire de l'irrespect.
Richard Malka, est-ce
parce que vous... sinon, il devient trop puissant et, encore une fois, il vous dit comment vous comporter du matin au soir.
Richard Malka, est-ce que vous pourriez être l'avocat d'un terroriste islamiste ?
Personnellement, non.
Vous ne pourriez
mais il
pas
en faut.
Incarner le rôle de et l'avocat du diable ?
Non,
votre consoeur Olivia Ronen, qui défend en ce moment le principal accusé des attentats du 13 novembre, ça veut dire quoi ? Que
Mais
la morale prend le pas sur le droit.
Non, mais c'est tout à son honneur de le défendre. Évidemment que tout terroriste, le plus barbare soit-il, il est normal qu'il ait un avocat. Et c'est pas facile d'être avocat dans ces conditions-là. Mais à titre personnel, je ne pourrais pas, parce que mon histoire, parce qu'on ne peut défendre que lorsqu'on comprend, et je ne ferai pas cet effort de compréhension à l'égard de ce terroriste-là, en tout cas. Et des terroristes en général, j'y arriverai pas. Donc je ne les défendrai pas.
Vous avez des nouvelles de Mila ?
Oui, j'ai des nouvelles de Mila, oui,
comment
bien sûr.
Comment va-t-elle ?
Ça, je ne réponds pas en général à cette question-là, ça, c'est pas de mon ressort, c'est pas à moi de le dire. Mais elle essaie de faire son chemin avec beaucoup de courage.
Richard Malka, vous êtes un acteur du débat public, vous avez une parole politique au sens large. D'ailleurs, dans votre livre « Le droit d'emmerder Dieu », il y a plusieurs coups de griffe contre des politiques. Contre ceux, écrivez-vous, qui ont soufflé sur les braises. Alors ça va de Jacques Chirac à Jean-Marc Ayron, en passant par Cohn-Bendit, Dati, Douste Blasi, Guigou, Mélenchon. Coupable, responsable, c'est ça que vous dites ?
Je dis qu'en tout cas, il y a eu beaucoup de lâcheté, beaucoup de cynisme, beaucoup de compromission, beaucoup de complaisance et un abandon en quelques jours, en quelques semaines, de ce qui fait l'idée de ce qu'est ce pays.
Mais eux aussi
Et de la part de ces politiques-là, oui, c'est une vraie culpabilité morale.
Dans votre livre « Plaidoirie », vous rapportez ces propos de Jean-Luc Mélenchon qui s'en prend à Charlie Hebdo dans une interview à La Provence. Il dit « Charlie a un regard raciste qui encourage les débordements. Il facilite l'escalade zémouriste. » Ça, c'était il y a un an que Jean-Luc Mélenchon a dit ça. Ironie de l'histoire, il va débattre avec Éric Zemmour.
Oui, c'est pas le premier dérapage ni le dernier de Jean-Luc Mélenchon sous cet angle-là. Ce qui est triste, c'est que dans ce débat-là, on a deux visions qui sont complètement simplistes et caricaturales de ce que sont les musulmans. Le premier considère que ce sont tous des envahisseurs, le second que ce sont tous des victimes. Ces deux visions sont essentialistes, sont caricaturales, simplistes, et on attend un troisième discours de raison. On l'attendrait de la gauche, mais qui est tétanisée par ces deux discours, qui en réalité confisquent ce débat et empêchent des solutions.
C'est-à-dire que l'un et l'autre, pour vous, hystérisent la société ?
L'un et l'autre sont dans la simplification extrême. Et oui, ils ne rendent pas, à mon sens, service à la ni à la société et ni à aucune de ses composantes.
Et ni au débat public ?
Non.
Qui pour vous ?
Non,
alors
pour
vous dites
moi,
qu'il n'y a personne à gauche.
Pour moi, le débat public, ça devrait être la raison. Et ils ne sont pas incarnés par ces deux discours.
Qui pour vous pourrait incarner un rôle ?
Je pense que sur ces questions-là, ça ne peut se régler qu'à gauche. C'est comme ça. La droite modérée doit avoir un discours, mais il y a un primat culturel à gauche. C'est sa responsabilité. La laïcité, c'est d'abord un combat de gauche.
Aujourd'hui, c'est le combat de tout le monde.
C'est le combat de tout le monde. Mais ça doit se régler là. Et on attend un peu de courage des responsables de gauche. Il y en a Carole Delga, Michael Delfos. Et ils gagnent quand ils l'ont. Mais il faudrait que le Parti socialiste se réveille. Anne Hidalgo est quelqu'un de très bien qui a pris des positions forte sur ces thèmes-là, mais je ne suis pas sûr quelle est l'audace d'aller au bout de ces positions.
Merci beaucoup Richard Malka. Vous publiez « Le droit d'emmerder Dieu » et c'est aux éditions Grasset.
Merci à vous.
Il faut savoir questionner et bousculer les religions, sinon Dieu régit nos vies. Du soir au matin, vient nous dire notamment Richard Malka. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Richard Malka, restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un petit instant.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
7h56, cher Philippe, Richard Malka, restez avec nous pour votre chronique.
Eh bien, je suis ravi, Thérèse. Richard Malka, c'est l'avocat qui sourit. Avec Dupont-Moretti, du coup, ça fait une moyenne. Richard, vous êtes le seul avocat avec un sourire d'animateur télé. Je vous admire car vous êtes toujours zen, philosophe. En fait, vous êtes Mathieu Ricard avec un froc. C'est vrai qu'être l'avocat de Charlie Hebdo, c'est un boulot compliqué, c'est pas le journal le plus reposant à défendre. Vous auriez défendu Pomme d'Api, ça vous faisait des journées plus calmes.
Bon, Richard Melka est l'avocat de Charlie Hebdo, mais aussi, par exemple, de Mila.
Et c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir de le voir, déjà parce que ça veut dire que vous êtes toujours vivant. Et c'est vrai qu'avec les abrutis qui vous menacent, c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis surtout, vous menez courageusement ce combat pour la liberté d'expression. C'est grâce à vous, entre autres, que je peux choisir de faire des vannes sur l'islam. Ou pas. Mais c'est votre combat qui me permet de choisir l'autocensure de façon libre. J'aimerais être courageux comme vous, Richard, mais comment le dire joliment, vous avez une hypertrophie testiculaire. Moi non plus.
Bon alors, comme nous avons un avocat avec nous, oui. On va en profiter pour parler justice. Hein. Justice. La troisième demande de mise en liberté du mari de Delphine Jubillar a été refusée.
Je suis navré de faire ça devant un avocat. Je n'ai aucun élément du dossier, mais j'ai quand même un avis. Dans l'affaire Jubillar, j'ai l'impression depuis le début que c'est pas le colonel Moutarde avec le chandelier. Hein, ça se mêle le Jonathan Daval saison 2. Oh là là.
Mais comment pouvez-vous avoir une telle conviction, Philippe ?
J'ai enquêté, Yves.
Ah.
Enfin, j'ai regardé BFM, c'est pareil, ne jouez pas sur les mots. Je le sens pas, le mari, depuis le début. Vous avez entendu ce qu'il tente de nous faire avaler ? Je dormais, Delphine est sortie faire un jogging en forêt à 23h48. Quand on aime le jogging, il n'y a pas d'heure. Quand à 3h24, elle n'était pas rentrée, je me suis inquiété. Je me suis levé, je me suis dit, tiens, si je faisais une lessive. C'est ça qui nous... Comme on fait tous, hein, quand on se lève à 3h24, oui. Au radar, nous les hommes, après avoir bu un coup à la cuisine et uriné sur la cuvette, on se dit tous, tiens, si je faisais une lessive, ou quelle est ma soupline fraîcheur alpine. Alors, la justice est lente, filez-moi les enquêtes, je vais vous trouver le coupable en 45 secondes.
Bien sûr. Alors, un sujet plus léger, une des conséquences de la baisse des cas de Covid, c'est le retour de la bise. On s'embrasse à nouveau.
Oh, quel bonheur.
Ouh là là.
Oh, chez moi c'est 4, chez moi c'est 3. Non, chez moi on commence à gauche, ferme ta gueule et garde tes microbes. Pardon, je suis devenu un brin misanthrope. Donc, retour à l'école en présentiel et retour de la bise 2. Très bonne nouvelle pour les pédophiles. Spéciale liberté d'expression, pardon. Alors c'est le vrai chiffre, il est horrible. Chaque année, ce sont 160 000 enfants qui subissent des violences sexuelles. 160 000, c'est la ville de Dijon. C'est comme si on abusait de toute la ville de Dijon. Il faut être un sacré détraqué, hein, parce que tout n'est pas bien, Dijon.
Je rêve. En tout cas, une grande campagne est lancée pour recueillir les témoignages de victimes d'inceste et de violences sexuelles.
La campagne est pour but de faire connaître ce numéro d'écoute gratuit, 0 805 802 804. Alors, pour nos amis prédateurs sexuels qui nous écoutent, je vous préviens,
oui.
Méfiez-vous des enfants, ils n'ont aucune parole. Ce sont des sales petits rapporteurs. Vous leur faites promettre de ne rien dire et devenus adultes sous prétexte qu'ils sont traumatisés. Ils répètent tout à tout le monde. Alors, pour aller mieux, on peut faire des films magnifiques comme André Bescon, Les Chatouilles, écrire des livres courageux comme Camille Kouchner, ou juste faire le numéro 0805 802 804.
Bon, un mot de politique. Hein, Éric Zemmour a évoqué chez Laurence Ferrari la nécessité de reconsidérer les accords d'Évian. Il ne veut plus qu'on facilite l'immigration en provenance d'Alger.
Non, il avait déjà demandé pour les prénoms le retour à une loi de 1803, ce qui est idiot. Benalla s'appelle Alexandre, pas Ahmed ou Mourad, comme quoi les prénoms français, ça évite pas les emmerdes avec la justice.
Oui.
En tout cas, Zemmour veut retourner dans le passé. C'est un retour vers le futur, mon Rico. Doc, la DeLorean nous a téléporté en 1803.
Nom de Zeus, Marty. Nous sommes bien en juin 2022, mais nous avons élu Éric Zemmour. Oh, c'est pas vrai, Doc.
Ah. En tout cas, cher maître, merci de défendre la liberté d'expression, la liberté de rendre en retard ma chronique et de foutre en l'air le journal de 8 heures, la liberté de blasphémer, la liberté de penser, de rire, de tenter de faire rire, la liberté de se tromper et la liberté d'être con. Et Dieu sait si j'en use et en abuse.
Philippe Cavrivière. Il est 8h sur RTL. On fait rapidement un point sur notre météo avec vous.
C'est facile. De toute façon, il y a du temps sec et ensoleillé partout. Quelques brouillards ce matin qui devraient très vite se dissiper. Et avec ce soleil, grand écart de température entre ce matin où il y a de la fraîcheur. Moins de 10 degrés encore dans la moitié nord en ce moment. Et cet après-midi, nous serons dans des valeurs de saison. 20 à 23 degrés au nord comme au sud. Jusqu'à 28 degrés, même parfois près de la Méditerranée.
Contrat rempli, il est toujours 8h.
Ouf.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
À la une, le fléau des algues vertes qui continue d'empoisonner le littoral breton.
Dernière victime probable, deux chiens morts quelques heures après avoir couru sur la plage et respiré les gaz toxiques. Nous allons y revenir. La France confirme ce matin, jusqu'au dernier moment, l'Australie avait promis l'achat des sous-marins. Preuve, ce courrier daté du matin même de l'annulation du contrat et qui stipule strictement l'inverse. À suivre également le scandale de ces profs non payés, des milliers d'heures de cours que l'éducation nationale national leur doit pourtant. Ce sera l'enquête de la brigade RTL. Le Rassemblement national forcé de ressortir les vieux slogans des années 80 pour contrer l'ascension d'Éric Zemmour. Et puis Lionel Messi atteint au genou, forfait ce soir avec le PSG. Une blessure qui interroge et vous verrez pourquoi.
Cyprien Signy, vous surfez dès la fin du journal.
Avec Gérard Depardieu, le citoyen russe modèle.
Rendez-vous est pris.
RTL Matin.
Les algues vertes ont-elles causé la mort de deux chiens dans les Côtes d'Armor ? Ce ne serait pas la première fois que des animaux succombent au gaz toxique rejeté par ces algues en décomposition. Cette fois, les chiens revenaient d'une promenade sur la plage. Des analyses sont en cours. Patrice Gabart.
C'est au retour d'une promenade de 20 minutes sur la plage de Saint-Efflam, à Plestin-les-Grèves, le 12 septembre dernier, que le chien de Jean-Louis Leroy, un border collet, a été pris de malaise pour succomber en moins de 48 heures.
Il est allé au fond du jardin et il s'est posé, le nez près du sol, et il avait des sortes de convulsions. Moi, ce qui me pose question, c'est que c'est la première fois que j'allais sur cette plage. À 16h, le chien était bien. À 18h, il était quasiment mort.
Un labrador et un épagneul sortis le même jour sur la même plage ont connu exactement les mêmes symptômes. Le premier est mort dans l'après-midi, le second reprend peu à peu ses esprits.
Moi, je veux bien qu'il y ait des coïncidences, mais là, c'est des coïncidences qui posent question.
Jean-Marie Lelay, président de l'association Sauvegarde du Trégor.
Sous une petite couche de sable, on a des algues. Et là, hier, j'ai trouvé une poche avec de l'hydrogène sulfuré dedans, quoi. Donc on ne peut pas exclure que les chiens aient été mettre leur nez là-dedans. Le premier suspect ici, pour ces intoxications, c'est bien l'hydrogène sulfuré des marées vertes.
Les analyses sont confiées au laboratoire Chemtox dans le Bas-Rhin. Premier résultat espéré d'ici une semaine.
Patrice Gabart, les algues vertes, un dossier qui empoisonne les côtes bretonnes depuis les années 70. Selon un récent rapport de la Cour des comptes, les nitrates qui alimentent la prolifération de ces algues sont à plus de 90% d'origine agricole.
S'il fallait une preuve supplémentaire de la trahison dénoncée par la France dans l'affaire des sous-marins, le ministère de la Défense en apporte une nouvelle ce matin.
Et cette preuve, c'est un courrier qui tend à montrer la mauvaise foi des Australiens dans ce dossier. Un courrier reçu quelques heures avant l'annulation du contrat. Il confirme, au contraire, la suite de la collaboration entre nos deux pays. Écoutez le porte-parole des armées.
Le 15 septembre, nous avons reçu un document officiel émanant du ministère de la Défense australien, signé par le directeur du programme de sous-marins de la marine australienne, qui dit que l'examen de tous les documents atteste de la bonne qualité de l'avancement du projet, qui en clair veut dire que nous allions pouvoir enclencher la prochaine phase du projet qui était prête à être contractualisée.
Hervé Grandjean, le porte-parole des armées. Bonjour Brice Dugénie.
Bonjour.
On comprend mieux ce matin la colère très forte de la France et cette impression d'avoir été, disons-le, berné par des mois et des mois de tractations et de trahison en coulisses.
Oui, la trahison germe dans l'esprit du Premier ministre australien Scott Morrison il y a un an et demi. Il commence à douter de l'offre française et il en parle à quatre personnes autour de lui, ses plus proches, et cela doit rester secret. En mars dernier, il le fait savoir à Boris Johnson. Et là encore, au 10 Downing Street, ce ne sont que quelques personnes qui sont dans la confidence. Le secret le mieux gardé de Londres et de Canberra. À ce stade, les Américains ne sont pas encore au courant. C'est lors du G7 en Cornouailles au mois de juin que sous le nez d'Emmanuel Macron, et alors que Joe Biden et Boris Johnson lui tapent dans le dos sous l'objectif des caméras, en coulisses, le président américain est mis dans la boucle et il valide la trahison. Alors au cours de ces mois, il y avait bien eu quelques rumeurs de changement, mais à chaque fois, les ministres français avaient été rassurés. La France a même proposé un sous-marin à propulsion nucléaire, mais le client australien a répété qu'il n'en voulait pas. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que la colère française ne retombe pas. Les Australiens, les Américains, les Britanniques ont eu toutes les occasions pour en parler aux Français au cours de ces mois, mais ils ont choisi de ne pas le faire.
Récit signé Brice Dugénie. On évoquait l'Australie à l'instant, touchée par un tremblement de terre il y a quelques heures. Un séisme rare dans ce pays qui a fait vaciller les immeubles à Melbourne. Il n'y a pas de victimes et peu de dégâts, mais quelques grosses frayeurs dans un pays peu habitué aux secousses. Et puis aux Canaries, l'éruption du volcan de La Palma pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La coulée engloutit tout sur son passage, maisons, forêts, villages. La vitesse de la lave est impressionnante, 200 mètres par heure.
8h05, la colère d'Emmanuel Macron maintenant, qui dénonce une faute déontologique après la fuite sur Internet de son pass sanitaire.
Oui, le QR code personnel du président, celui du Premier ministre également, se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Des soignants pourraient y avoir eu accès. Une enquête a été ouverte pour retrouver trouver l'origine de la fuite. L'avenir du pass sanitaire, justement, il en sera question aujourd'hui à l'occasion du Conseil de défense. Le chef de l'État a promis, vous le savez, d'assouplir les règles dans certains départements. Pour autant, les annonces, William Galibert, pourraient prendre un peu plus de temps que prévu.
Oui, sur le papier, l'horizon se dégage, mais faut-il dès à présent alléger les choses, assouplir les règles dans les départements où ça va mieux ? Des réunions préparatoires ont déjà eu lieu. Des scénarios de territorialisation du pass sanitaire sont prêts pour faire du cas par cas. Mais au sein de l'exécutif, beaucoup plaident encore pour la prudence. Il n'y a pas non plus une énorme pression dans l'opinion. Le pass sanitaire est accepté, commente un conseiller. Et puis on manque un peu de recul sur la rentrée scolaire, par exemple, explique un autre. Pas très chaud non plus pour changer tout de suite les protocoles dans les établissements. Il pourrait donc ne pas y avoir d'annonce immédiate. Mais on nous rappelle aussi que, lors de ces conseils de défense sanitaire, Emmanuel Macron a souvent pris tout le monde de court, y compris parmi ses plus proches.
Et justement, à propos de l'allègement du pass sanitaire, RTL a mené l'enquête de son côté. Virginie Garin a contacté l'ensemble des présidents de département actuellement classés verts. Et un quart seulement se disent favorables à un assouplissement. Une grande majorité préfère rester prudent. Une semaine après l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé, l'hôpital de Mulhouse contraint de déclencher le plan blanc faute de personnel suffisant. 170 salariés, dont de nombreux soignants non vaccinés, ont déjà été suspendus sur près de 6000 salariés au total. Mais l'hôpital manquait déjà de ressources et d'effectifs. Les opérations non urgentes ont été déprogrammées. Nous vous parlions hier, ici même, sur RTL, de cette situation édifiante à Cavaillon, dans le Vaucluse, où les services publics avaient déserté la ville à la suite de violences sur fond de trafic de drogue. Eh bien, quelques heures après la diffusion de notre reportage, une nouvelle fusillade a éclaté. La population est à bout. Écoutez l'appel désespéré de Sonia, mère de 3 enfants qui vit à Cavaillon.
Depuis le mois de juin, on crie « Mettez-nous une sécurité pour les petits !» Il y a des mamans qui viennent à pied. Vous imaginez, ça attire à 11h20. Oh, les parents, ils sont tous là, à aller chercher leurs gosses. Depuis tout à l'heure, je vous parle, j'ai les jambes qui tremblent. Imaginez, moi, j'ai mon fils, il a 13 ans. Normalement, il rentre tout seul du collège. S'il aurait fini à 11h, à 11h20, il arrive, il prend une balle perdue. Il est où le maire? Il est où Macron? Il est où le Premier ministre? On habite en France, on est en France. On vote comme tout le monde, on paye nos impôts comme tout le monde. C'est trop dur. Choqué, haine, colère, tout ce que vous voulez. On a toutes les émotions.
Un témoignage recueilli par Étienne Baudu pour RTL.
Dans un instant, y aurait-il 2 catégories de profs, ceux payés à la fin du mois et ceux qui attendent désespérément leur salaire? La grogne des vacataires, enquête RTL, que vous allez retrouver dans quelques instants.
RTL Matin.
8h11, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Alors, des profs qui enseignent sans être payés depuis près d'un an, ça vous paraît dingue et c'est pourtant une réalité.
Oui, c'est celle des vacataires de l'enseignement supérieur, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils sont indispensables, mais loin d'être traités comme tels. C'est l'enquête ce matin de la brigade RTL. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
La grogne monte donc chez ces profs, contraints de devoir attendre des mois avant d'être payés.
Oui, 3 mois, 6 mois, voire même 1 an après avoir donné des cours. Pour bien comprendre, les vacataires, ce sont des profs qui ne sont pas salariés, simplement recrutés par les facs pour des missions temporaires. Soit des étudiants qui passent leur thèse, soit des intervenants extérieurs qui apportent leur expertise comme un juge dans une fac de droit.
Et alors, pourquoi y a-t-il de tels retards dans le versement de leur salaire?
Alors, j'aimerais vous dire qu'il y a un bug informatique, mais non, même pas. En fait, il y a 2 raisons. Une bizarrerie de statut qui prévoit des payes trimestrielles, parfois seulement après la fin du tout dernier cours donné, et surtout des lourdeurs administratives qui ajoutent des mois de retard au retard. Bérangère Viennot attend un virement de plus de 2000 euros pour des cours de traduction donnés à Paris au début de l'année. Excédée, elle vient d'écrire directement à la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal.
On n'est pas du tout protégé, c'est la précarité extrême. Je trouve qu'il y a quand même un manque de respect par rapport à l'enseignement qu'on dispense, en plus à un enseignement supérieur. Comme je suis indépendante depuis plus de 20 ans, j'ai l'habitude d'avoir des clients qui payent en retard. J'ai l'habitude de les harceler, mais en général, c'est des clients privés.
Oui, sauf que là, c'est l'État.
Oui, c'est l'État qui ne me paye pas pour mon travail, ou en tout cas, qui fait de son maximum pour retarder le moment où il va me payer, comme si ce n'était pas important de payer ses enseignants.
Alors, pas de réponse hein, du ministère, qui a évité aussi nos sollicitations d'ailleurs. La mensualisation du salaire de ces vacataires est un serpent de mer, souvent évoqué à l'Assemblée nationale, toujours repoussé.
Pierre, ils sont combien dans ce cas-là?
150 000 pour seulement 92 000 profs titulaires. Alors, ils font moins d'heures, hein, mais quand même, la multiplication des vacataires devient une alternative au CDI, plus coûteux car mieux payé et plus cher en charge. Le SNES SUP, le syndicat des enseignants du supérieur, a publié une étude sur le sujet. Les plus actifs de ces profs précaires assurent 2,5 millions d'heures de cours chaque année, l'équivalent de 13 000 postes d'enseignants-chercheurs.
La brigade RTL signée ce matin Pierre Herbulot.
8h13, après un été plutôt discret, une rentrée qui l'est tout autant, Marine Le Pen a finalement choisi d'enclencher la seconde.
Et d'accélérer le rythme de sa campagne et de ses déplacements. Éric Zemmour y serait-il pour quelque chose? Le polémiste, pas vraiment, mais déjà un peu candidat, est crédité de 11% dans un dernier sondage. Le Rassemblement National, lui, continue de perdre quelques points et se retrouve forcé, Marie Mollet, d'aller puiser, c'est un comble, dans les vieilles recettes.
Oui, Éric Zemmour répète que Marine Le Pen lui pique ses idées, reprend ses mots sur l'immigration. La candidate veut lui rappeler qu'il n'a rien inventé, pas question de laisser le polémiste seul en piste sur son thème de prédilection. Alors hier, les équipes du RN ont dégainé FISA, un déplacement prévu dès demain. Au menu, pas de fantaisie, la priorité nationale. Il faut qu'on rappelle que les premiers sur l'immigration, c'est nous et pas Zemmour, assure un cadre. Et pour ceux qui en douteraient, les petites mains du RN ont exhumé des affiches de campagne du Front époque Jean-Marie Le Pen. La France aux Français, mondialisation piège à con, le tout diffusé sur les réseaux sociaux. Il y a bien longtemps que le RN n'avait pas fièrement fait référence à son passé. Le parti essayait plutôt de le faire oublier. Dédiabolisation oblige. Occuper le terrain sur l'immigration, d'accord, mais Marine Le Pen n'a pas l'intention de re-radicaliser son discours. Zemmour va faire du trash. Nous, on va porter un programme politiquement et juridiquement applicable, assure un proche. Et vous verrez, dit-il, ça fera toute la différence.
Marie Mollet.
Le football ce soir avec enfin la 7e journée de Ligue 1.
5 matchs à 19h, les 5 autres à 21h à suivre en fil rouge sur RTL. Parmi les affiches, Metz, Paris Saint-Germain, un Paris sans Messi, blessé au genou. Une blessure qui viendrait expliquer sa sortie avant la fin du match dimanche dernier au Parc des Princes. Une décision de l'entraîneur Pochettino qui avait fait couler beaucoup d'encre, à moins que cette blessure, et c'est ce que pensent certains, ne tombe à pic justement pour clore la polémique, Philippe Sanfourche.
Oui, Lionel Messi avait bien reçu un coup face à Lyon et souffrait du genou, mais suffisamment pour nécessiter un changement. C'est là que se situe la question. Lui, Cristiano Ronaldo, les stars de cette dimension, ne supportent pas d'être sortis factuellement sur les 11 dernières saisons et 370 matchs à Barcelone. Messi n'a été remplacé que 17 fois, autant dire, quand lui le demande. D'où ces images d'incompréhension entre les deux hommes, commentées dans le monde entier. Mauricio Pochettino en est bien conscient.
Je comprends et j'accepte les commentaires. Ça ne me surprend pas. Mais après 75 minutes de jeu et avec les informations que l'on avait, on a préféré privilégier la santé du joueur. C'est un grand champion et les champions ne veulent pas sortir, mais c'était la meilleure décision.
Messi absent ce soir, Pochettino n'aura pas à trancher. Le seul impératif pour lui et le PSG étant que la star argentine soit bien prête pour disputer un match entier, cette fois-ci dans 6 jours face à Manchester City.
Philippe Sanfourche, et puis noter que le match Lens-Strasbourg se jouera à huis clos, les Sangers ayant écopé d'une sanction après les incidents contre Lille.
C'était le journal de Dominique Tenza. Vous avez la gentillesse de revenir à 9h pour le point de l'actualité.
Je serai au rendez-vous.
On compte sur vous. Dans un instant, Cyprien Sini surf avec, mais alors, un citoyen russe modèle du nom de Gérard Depardieu.
Здравствуйте.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
8h19, Cyprien, vous surfez avec Gérard Depardieu. Un citoyen russe modèle, m'avez-vous soufflé?
Mais oui, car pendant que nous, en France, on est là Zemmour, pas Zemmour, Xavier Bertrand, pas Xavier Bertrand, oui. Et bien notre GG là-bas en Russie, il se pose moins de questions ce week-end. Il est allé voter pour la Douma, vous savez, c'est le Parlement russe.
Participer à ces élections, c'est important.
Absolument. En France, j'ai très peu, j'ai pas voté. Beaucoup en France, je vote pas.
Mais alors, en Russie, parce que je vous rappelle qu'il a le passeport russe depuis 2013...
Je fais mon devoir, qui est de voter.
Eh oui, camarade Depardieu a voté. Et cette question, évidemment, sur toutes les lèvres. Où se situe Gégé sur l'échiquier politique russe? Suspense, franchement, on ne voit pas du tout. Peut-être un indice dans sa réponse donnée à la chaîne Spoutnik juste après avoir voté. Oui.
J'adore la Russie, partout où je voyage dans la Russie, on sent véritablement qu'il y a un amour pour Poutine. J'ai pas rencontré beaucoup de gens qui disaient le contraire.
Ah bah non, on voit toujours pas. Il y a un autre indice peut-être.
J'adore la Russie, j'adore Vladimir Poutine.
Ça alors, c'est pas vrai, il aime bien Poutine. Suppos du pouvoir, GG. Ah, ils nous l'ont changé, notre Depardieu national, les Russes. Lui qui disait pourtant...
Moi, je me mêle jamais de politique quand je suis dans un pays étranger.
Non, jamais, non. Hein, sauf là. Donc, hein, lui qui exècre les hommes de pouvoir.
Il y a tellement de cons, surtout quand ils ont le pouvoir.
Vous le dites dans le livre, ceux qui ont le pouvoir.
Oui, ça, beaucoup de cons. Beaucoup.
Ouais, enfin, sauf Vlad, hein, donc. Après, GG en Russie, il est comme à la maison. Hein. Bon, il a bien eu un peu de mal à se repérer au départ. Hein.
Je serai le porte-parole de la Mordavie, partout où je passerai. Comment s'appelle cette ville merveilleuse, là, où on est ? La Mordavia, Saransk.
Voilà, il sait même plus où il est. Et alors, problème de repère dans l'espace, mais dans le temps aussi. Hein.
L'URSS, j'y vais toujours, pas l'URSS. La Russie, dobre din.
Ouais, l'URSS, Russie, c'est pareil. Attendez, il s'est même mis au cours de russe. Écoutez-le en élève appliqué.
Te lubish mnia, o te lubish eto. Yevo, yevo, te lubish yevo.
Il grille, il est content. Pour info, il a dit « Tu l'aimes, lui ?» Et puis de toute façon, je sais pas pourquoi il dit ça, ce qu'on raconte de lui ici en France, bah, ça le touche pas parce que...
Ce que des gens bavent ou disent, rien à foutre.
Heureux comme un pape là-bas, le GG, en espérant quand même une chose.
Très bon, ça. C'est bon, là. Ça doit être bon à manger un phoque.
C'est qu'il garde cet appétit et ce rire qui font de GG à jamais bah, notre Depardieu.
Oui, c'est sûr. Il est sous le charme de son Vladimouchka, hein, c'est un petit peu ça.
Et nous, on l'aime bien quand même.
Ben oui. Merci Cyprien Signy, on vous retrouve pour défaire le monde avec votre équipe dès 18h40 dans RTL Soir.
On va vous parler des supporters de foot.
Super.
Une enquête.
Dans un instant, nous vous proposons une exclusivité sur RTL. Le coordinateur de l'enquête du 13 novembre prend la parole pour la première fois avant de témoigner au procès. Les doutes, les surprises, mais aussi les réussites d'une enquête incroyable menée par la DGSI, nos services de renseignement extérieur.
RTL Matin, Yves Calvi.
Document RTL.
Il est 8h24, un document RTL, car il n'a jamais parlé publiquement depuis les attentats du 13 novembre 2015. Et pour cause, c'est un policier de l'ombre, membre de la très secrète DGSI, le contre-terrorisme français, nos services intérieurs. Ce coordinateur de l'enquête sur les attaques de Paris et Saint-Denis se confie ce matin sur RTL. Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
Dès le soir du 13 novembre, ce policier et ses équipes ont traqué sans relâche les terroristes et leurs commanditaires.
Oui, une enquête fleuve qui a commencé dès les premières explosions au Stade de France. Ce spécialiste des attentats djihadiste a été immédiatement appelé pour rallier les locaux de la DGSI, le service chargé de la lutte antiterroriste. Toute la police française était alors mobilisée, mais c'est une charge particulièrement lourde qui a pesé sur les épaules des agents de la DGSI, service de pointe qui fait à la fois du renseignement et de la police judiciaire. Leur mission première, éviter un surattentat. Ce policier déposera de manière anonyme d'ici quelques semaines au procès du 13 novembre, souvenir d'un homme de l'ombre.
Le soir, j'ai appris l'information par mon propre sous-directeur, étant entendu que au moment où nous sommes appelés, les actions sont toujours en cours, notamment la salle de spectacle du Bataclan et sur les terrasses. Dans les premières minutes, en ce qui concerne la DGSI, nous avons besoin de rapidement faire le point sur la situation des gens que l'on a ciblés comme étant susceptibles de passer à l'action violente. S'il y a des surveillances en cours, faire un point sur où elles en étaient. Si des écoutes sont en cours, refaire un point dessus. Et déjà de faire ce premier tri, au moins sur ceux que l'on connaît. Puisque au moment où se commettent les actions, on ne sait pas à qui on a affaire.
Pourquoi est-ce que c'est crucial à ce moment-là de savoir où sont ces objectifs, ces cibles que vous surveillez ?
Pour s'assurer que possiblement ils ne font pas partie des auteurs et d'autre part pour également s'assurer qu'ils ne passent pas eux-mêmes à l'action par souci d'imitation, souci de se faire connaître au même moment.
Et finalement ça n'a pas été le cas.
Non.
Quel souvenir vous gardez de l'atmosphère qui régnait à la DGSI le soir du 13 novembre ?
Une atmosphère triste en premier lieu, de colère initialement, mais qu'il faut rapidement surmonter pour se mobiliser et travailler. Et je pense que c'est d'abord ça qui ressortait et on allait vite parce que il était évident que des membres du commando qui avaient participé à la tuerie sur les terrasses avaient disparu dans la nature. C'est ce qui ressortait dès le milieu de la nuit avec un enjeu de vitesse lorsque une témoin a annoncé avoir rencontré un individu que l'on a identifié du fait de sa description et des propos qu'il tenait comme étant vraisemblablement Abaoud et qui semblait pouvoir commettre une nouvelle action probablement dans les jours suivants.
À ce moment-là, vous avez un rôle très important pour savoir si cette témoin dit vrai, en fait.
En réalité, cette personne, on ne la connaissait pas du tout. La seule façon de crédibiliser son témoignage, c'était de confronter ce qu'elle disait avec ce que nous savions des personnalités de l'État islamique qui pouvaient projeter de tels actes sur le territoire. Et il se trouve qu'effectivement, Abaoud était connu comme étant une cheville ouvrière de la projection d'opérationnel en Europe. Et les propos qu'elle tenait été cohérent par rapport à ce qu'on en savait. Les équipes de la DCPJ ont mis en place une surveillance de l'endroit où semblait se terrer Abaoud et ont réussi à identifier l'appartement où sa cousine avait trouvé à le cacher.
Abdelhamid Abaoud, le chef du commando, est alors neutralisé à Saint-Denis. C'est là que commence l'enquête fleuve.
La première chose, c'est l'enquête judiciaire qui va nous conduire à chercher à identifier les auteurs d'attentats. Je vous rappelle que Fouad Mohamed Agan n'a été identifié que de mémoire vers la fin novembre ou début décembre. Et d'autre part, il fallait mettre des noms sur les individus qui étaient venus en Europe avec des fausses identités, comme les deux des kamikazes du Stade de France. Et puis d'autre part, des enquêtes à mener en Grèce pour identifier à travers les flots de réfugiés qui s'étaient déversés sur les îles grecques d'autres des membres des commandos. Et ce travail a été long et fastidieux, mais il a permis au final de pouvoir retracer les dates de passage de la plupart des membres des commandos, ainsi que les voyages qu'ils ont effectués à travers l'Europe.
Comment est-ce que vous avez pu remonter ensuite les commanditaires de l'État islamique, ce qu'on a appelé le bureau des attentats ?
Nous avons des liens peut-être parfois plus privilégiés avec des services de renseignement d'autres pays qui nous permettent d'accéder à certaines informations. Et c'est ce qui nous a amené, au cours des dernières années et mois, à mieux préciser la structuration du groupe qui pilotait ou en tout cas validait les opérations extérieures au sein de l'État islamique. À l'occasion de ce procès, des enquêteurs témoigneront de ce que, à notre sens, était la fameuse cellule des opérations extérieures, avec toutes les précautions d'usage en la matière, puisqu'il s'agit tout de même de reconstituer à distance une structuration, une organisation que l'on devine par touche, à travers soit du renseignement, soit avec des informations collectées au gré d'autres enquêtes d'attentats déjouées et qui ont pu être reversées dans cette enquête-ci.
Qu'est-ce que vous retirez aujourd'hui de cette enquête 13 novembre que vous avez coordonnée au sein de la DGSI ?
La première satisfaction qu'on a eue, c'est de pouvoir entraver les individus et les auteurs qui se sont enfuis. Mais certains, et notamment en Syrie, participaient à d'autres affaires. La satisfaction pour la DGSI, ça a été d'entraver d'autres projets qui étaient menés par ces mêmes personnes. Ça a été de constater que l'essentiel des membres de cette structure a été tué. Et donc c'était de pouvoir réussir à éviter d'autres morts à travers notre action. Comme je vous le dis, notre premier métier, c'est aussi d'éviter que ça ne se reproduise, ou que ça se produise tout court. Donc le travail, c'est d'éviter que ces individus qui sont des criminels puissent terroriser les gens dans nos rues, faire que on craigne de sortir, de vivre normalement. Et ça, c'est ce pourquoi on se bat.
La satisfaction de la DGSI, c'est d'avoir évité d'autres morts grâce à son action. Merci Thomas Proutot. Ce témoignage et notre dossier spécial 13 novembre sont à retrouver sur notre site internet rtl.fr. Notre météo à 7 jours maintenant avec vous, Louis
Bonnard. Oui, avec le soleil qui revient, hein, aujourd'hui, on l'a dit, il sera là partout avec quelques belles éclaircies, quelques petits passages nuageux en montagne, mais sans conséquence. Et avec ce soleil, des températures alors un peu fraîches ce matin, hein, souvent en dessous de 10 degrés dans la moitié nord, plus agréable cet après-midi, entre 20 et 24 degrés, un peu plus de 25 degrés près de la Méditerranée. Demain, c'est la même chose, avec là encore un temps sec, ensoleillé toute la journée, quelques brumes au brouillard le matin, mais ça va vite se dissiper. Les températures comparables à celles d'aujourd'hui, souvent entre 20 et 25 degrés, un peu plus près de la Méditerranée. Je peux reconduire ça pour la journée de vendredi,
oui.
Donc trois journées plutôt agréables. Alors le problème, c'est que ça se dégrade pour le week-end, ça tombe mal, notamment dans la journée de samedi. Alors l'essentiel de la journée se passera encore sous le soleil, mais en fin de journée arrivera par le sud-ouest un temps un peu plus instable, un peu plus orageux, qui devrait traverser la France en diagonale dans la nuit de samedi à dimanche. Et du coup, dimanche, ça laissera un ciel un peu plus changeant, un peu plus variable, avec encore quelques averses, notamment dans l'est, avant une nouvelle amélioration. Non, c'est pas fait exprès. Juste après le week-end, à partir de lundi et mardi, un temps un petit peu plus calme. Bon, c'est l'automne qui s'installe, avec un peu de fraîcheur le matin, des brouillards, et puis le soleil qui résiste encore un peu en cours de journée.
Pour le week-end, on ira au théâtre, au cinéma, on jouera au Scrabble. D'ailleurs, le cinéma, on va en parler avec toutes les nouvelles sorties. Ce sera avec Stéphane Boutsock dans Laissez-vous tenter dès 9h. Merci, cher Louis.
À demain, merci.
Et à demain. Dans un instant, on va retrouver Laurent Gérard et toute son équipe. Et puis ensuite, direction l'Auvergne, à la découverte d'un chasseur de dinosaures dans RTL. Vous êtes comme ça. Oui, il y en a.
RTL. Revivre ensemble.
RTL autour du monde.
RTL autour du monde s'intéresse à cette armée secrète connue sous le nom de groupe Wagner, une organisation paramilitaire qui est en négociation aujourd'hui avec le gouvernement malien. Bonjour Brice Dugénie.
Bonjour.
Le ministre français des Affaires des Armées, Florence Parly, était au Sahel en début de semaine. Les intentions de cette milice commencent à inquiéter. De quoi parle-t-on précisément ?
Alors officiellement, c'est une société privée russe, un groupe paramilitaire qui propose des services de sécurité, de la protection rapprochée de personnalité, de la formation militaire, de la vente d'armes, du maintien de l'ordre. Et leur slogan est le suivant : nous sommes là où l'anarchie se produit et nous le faisons au service de notre patrie, comprendre la Russie. Mais alors officiellement, ce ne sont pas des combattants.
Mais alors Brice, où retrouve-t-on ces mercenaires ?
Eh ben c'est là que ça devient troublant. C'est que les pays dans lesquels ils sont présents sont des pays en crise : la Libye, la Syrie, l'Ukraine, la Centrafrique, le Venezuela. Et ces zones correspondent parfaitement aux ambitions diplomatiques russes. Et ces hommes du groupe Wagner, ils ne se contentent pas de faire du maintien de l'ordre, en fait. Ils combattent, et souvent pour défendre les intérêts de Moscou. Plus de 3000 hommes ont servi en Syrie, plus de 2500 en Ukraine, plus d'un millier en Libye, parfois aux côtés de l'armée russe, parfois à la place de l'armée russe pour défendre les intérêts de Moscou, mais en toute discrétion.
Il y a donc des connexions très claires entre cette organisation et les armées russes elles-mêmes.
Oui, le mystère, il est savamment entretenu, mais les hommes soupçonnés de commander et de diriger ce groupe, ce sont des anciens de l'armée russe, donc ils ont des connexions évidentes. Et puis celui qui dirige cette société, c'est Evgeny Prigojine, c'est un oligarque connu, très proche de Vladimir Poutine. Seulement, évidemment, officiellement, pour le Kremlin et puis pour toutes ces personnes, le groupe Wagner n'existe pas.
Bon, quel est l'intérêt pour Moscou dans tout ça ?
Sous-traiter la violence à un groupe privé secret, ça permet simplement au Kremlin de nier son implication, d'autant que certains rapports des Nations Unies commencent à accuser ces mercenaires d'exaction. Ils opèrent anonymement, en dehors de tout cadre légal. Écoutez, la réponse du président Poutine lorsqu'une question lui est posée sur ses liens avec ces combattants présents en Libye.
S'il y a des citoyens russes en Libye, ils ne représentent pas les intérêts de la Russie et ils ne sont pas payés par la Russie. Il y a beaucoup de mercenaires dans les zones de conflit et d'après nos informations, beaucoup ont quitté la Syrie pour se rendre en Libye. C'est très inquiétant.
Ce groupe Wagner, surnommé l'armée de l'ombre de Poutine, est donc actuellement en discussion avec le gouvernement malien, vous le disiez, pour y assurer des missions. Raison pour laquelle la ministre française Florence Parly est allée au Mali en début de semaine pour dire au gouvernement de Bamako que l'arrivée de ces mercenaires russes au Sahel serait sûrement incompatible avec les présences militaires françaises et européennes.
L'armée de l'ombre de Poutine retiendra notamment cette formule. RTL autour du monde, merci beaucoup Brice Dugénie. Et pour encore plus d'informations internationales, rendez-vous sur rtl.fr.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h38, ce matin Isabelle Choquet, vous vous penchez sur un objet étrange, au nom tout aussi étrange, Oumuamua.
Un ovni, et ce n'est pas une image. Un minuscule objet cosmique surgit de nulle part et qui s'est volatilisé à une vitesse surnaturelle. Qu'est-ce que c'était ? Les astronomes sont en ébullition, ils parlent dans le magazine scientifique Epsilon. Tout a commencé en octobre 2017 à Hawaï. Le télescope Pan-STARRS détecte une petite tache floue qui file anormalement vite. L'astronome de permanence est intrigué, la trajectoire est étrange. Mm-hmm. Au bout de 3 jours, il en est convaincu, l'objet vient d'ailleurs, de l'extérieur du système solaire. Il est baptisé A2017U1. Car il est le premier visiteur venu d'un autre endroit de la galaxie. Mais en hommage au lieu de sa découverte, on lui trouve un nom hawaïen, Oumuamua, ce qui signifie « éclaireur du passé qui nous contacte ». Tous les grands télescopes du monde se mettent sur le coup. Oumuamua est seulement à 30 millions de kilomètres. À l'échelle cosmique, c'est à 2 pas, c'est 2 fois plus proche que Mars. Seul problème, il est tout petit et il file à toute allure. 10 jours après son apparition, il est déjà parti. Cela faisait des dizaines d'années que les astronomes espéraient sa venue. Il n'a fait que passer. Et ce n'est que le début de l'histoire. Car Oumuamua ne correspond à rien de ce que les scientifiques avaient pu imaginer. Ils attendaient une sorte de comète glacée, mais il n'y a ni gaz ni poussière. Ils pensaient découvrir un objet vaguement rond, comme les astéroïdes, mais visiblement, le truc tourne, il virevolte même, et il a la forme d'un gros cigare, ce qui n'est pas banal pour un objet astronomique, il aurait dû se casser. Mais ce n'est pas tout, on découvre qu'Oumuamua accélère, une accélération inexplicable. Il n'y a que les comètes qui font ça, et précisément, je viens de vous le dire, ce n'est pas une comète.
Non.
C'est une énigme. Oumuamua était excitant, il devient carrément obsessionnel, écrit Epsilon. Plus de 200 astronomes se penchent sur son cas, parmi eux un certain Daryl Seligman de l'université de Chicago. Son hypothèse se détache immédiatement, Oumuamua moi, serait une sorte de gros iceberg d'hydrogène. Ça explique toutes les bizarreries de la chose, même sa forme. Oumuamua était peut-être rond, dit-il, mais à mesure qu'il s'est rapproché du Soleil, il aura perdu de l'hydrogène et se sera usé, un peu comme un savon sous la douche. Cette hypothèse permet d'imaginer une histoire. Ce visiteur se serait formé dans un nuage géant de la Voie lactée et il serait resté sur place jusqu'à ce que notre système solaire le rattrape. Donc en réalité, le visiteur, ce serait plutôt nous. Un autre chercheur évoque, lui, un gros bloc de glace d'azote perdu par une planète genre Pluton. Et puis un troisième envoie tout ça valser. Selon lui, pour que le télescope hawaïen repère Oumuamua, il faudrait qu'il en existe d'autres dans la galaxie. Beaucoup d'autres. Statistiquement, 10 puissance 26, autrement dit 100 000 millions de milliards de milliards. Or, personne n'a jamais vu d'iceberg d'hydrogène ou d'azote. D'où cette nouvelle hypothèse. L'objet pourrait avoir une origine artificielle. En clair, il aurait pu être fabriqué par des extraterrestres. Hypothèse qui fait bondir tous ses collègues. La communauté astronomique est conservatrice, répond Avilob. Elle ne cherche que des morceaux de roche ou de glace qui ressemblent à ce qu'elle connaît déjà. Alors des ovnis, cela dit, ils n'ont pas fini d'en voir, car l'an prochain, l'observatoire Vera Rubin entrera en fonction au Chili. Il va permettre de détecter jusqu'à 10 objets interstellaires par an. Ce seront peut-être de simples comètes. Et dans ce cas, Oumuamua restera pour toujours un mystère. L'objet qui rend fou, article à lire dans le magazine Epsilon de septembre.
Et je vous rappelle une dernière fois son nom, Oumuamua.
Oui, il faut s'habituer.
C'est assez charmant, oui, il faut s'habituer, absolument. Merci et à demain matin, Isabelle Choquet.
RTL, vous êtes comme ça.
Avec une découverte ce matin et un métier que l'on pourrait croire réservé au cinéma hollywoodien. Direction en fait l'Auvergne et Ghana dans l'Allier. Nous allons partir à la rencontre de ce que l'on pourrait presque appeler un chasseur de dinosaures. François Esculier est un paléontologue reconnu dans le monde entier et il a son entreprise dédiée à ces fossiles plus que millénaires. Et vous vous êtes rendu sur place, Guillaume Frixon.
Eh bien de l'extérieur, c'est un entrepôt tout ce qu'il y a de plus banal. Mais une fois passées les portes blindées, on entre dans une toute autre dimension aussi déconcertante que spectaculaire. Exemple, dans la salle d'exposition de François Esculier, un paléontologue passionné et intarissable.
Alors lui, il n'est pas sur deux pattes comme un tyrannosaure, il est à quatre pattes, mais il vivait en même temps que lui, c'est un tricératops. Donc là, on voit, il fait à peu près 7,50 m, 8 m de long, c'est un des plus grands connus. Et là, on a ce crâne avec effectivement ces trois cornes qui caractérisent le tricératops, en fait tri pour trois, serra pour corne, qui vivait il y a 67 millions d'années.
Vous avez trouvé ça où ?
Alors celui-là vient du Sud Dakota.
Alors ici, ce sont des centaines de milliers de petites pièces qui sont rangées précieusement dans des petites boîtes ou sur des étagères. Des dents, des fossiles, des petits os et parfois de vrais ossements de dinosaures pour un puzzle archéologique.
Beaucoup de scientifiques se prennent au sérieux. Non, la science c'est aussi comme l'art, c'est un moyen de s'ouvrir l'esprit et de rêver et de découvrir. Là, effectivement, on est au milieu de tout un tas de bestioles, ce tricératops, ce tyrannosaure, la tortue géante, des poissons du Dévonien, un ichthyosaure. C'est toujours une source d'émerveillement. Il faut rester émerveillé.
À bientôt 60 ans, François a parcouru tous les continents à la recherche de nouveaux fossiles qui pourraient permettre une nouvelle connaissance scientifique et historique d'une époque vieille de plusieurs millions d'années.
Ah, mais c'est toujours de l'excitation, c'est-à-dire que soit on va avoir l'émotion de trouver la chose d'un coup, par exemple la roche va s'ouvrir en deux, soit on va ouvrir une fouille et on va commencer à trouver quelques petits morceaux d'os pour après dégager complètement un squelette.
Et dans une petite pièce où la poussière s'envole, lunettes et masque de protection sur le nez, Christophe Lafont, restaurateur en paléontologie, brosse et dégage un fossile pris dans une roche. Un métier pas commun et toujours aussi étonnant.
C'est un métier où on n'arrête pas d'apprendre et où il faut être tout le temps sur le terrain. C'est très passionnant et très chronophage aussi. Il faut énormément de temps et énormément de patience. Il ne faut jamais s'énerver. Il faut rester toujours cool.
Avec ses véritables ossements, ses reconstitutions de dinosaures, l'entreprise de François assure aussi la partie mercantile de cette passion.
Quand un spécimen est nouveau pour la science, il ne faut pas spéculer financièrement dessus. Il doit aller dans une institution, il doit être étudié et accessible à tous. C'est un instantané de la vie, ça devient aussi des œuvres d'art, ça devient aussi des objets de rêverie. Un ichthyosaure entre 30 et 40 000 euros suivant la taille, un poisson fossile du Wyoming ou des... Bon, il y a des poissons qui font une centaine d'euros et d'autres, de grands panneaux avec une palme, c'est 10, 20, 30 000 dollars par exemple.
Son prochain projet est pour 2022. Il espère trouver des ossements de dinosaures au Liban, de nouvelles fouilles, mais toujours la même fougue qu'au premier jour.
Merci beaucoup Guillaume Frixon pour cette rencontre avec ce paléontologue chasseur de dinosaures, François Esculier. Et dans un instant, sur RTL, Laurent Gérard et toute son équipe.
RTL Matin, Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Ça commence.
Ah bah oui, bon écoutez, bon, on va pas être triste non plus.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. L'été touche à sa fin, mais les légumes sont encore nombreux dans les jardins. On fait le point avec notre spécialiste. Bonjour Stéphane Marie.
Bonjour, bonjour.
Ah oui, c'est beau.
En effet, nous sommes dans une saison merveilleuse pour les jardins, la campagne, d'autant plus à la campagne électorale.
Ah oui, mais quel genre de légumes y trouve-t-on ?
Eh bien d'abord des légumes verts, de la Sandrine Rousseau, du Yannick Jadot, de l'Éric Piolle et tout un tas d'autres végétaux issus de la cancel culture.
La cancel culture, mais qu'est-ce
que
c'est ?
Oui, bah bon, avec les gourdes.
Dis donc.
La cancel culture, c'est comme l'agriculture, mais au lieu de faire pousser les salades, on les raconte. Si vous êtes constipé, c'est idéal parce que ça fait... parce que ça fait super chier.
Eh oui, vous l'avez dit. Et... si l'on n'est pas adepte de cancel culture...
Eh bien, vous avez le Xavier Bertrand, une variété d'endive. Par contre, comme les endives, c'est comestible, mais c'est un peu terne. Hein. Voilà, hein, c'est ce qu'on dit. Hein.
C'est ce qu'on dit. Parlez-nous plutôt des légumes qui ont du goût. Alors, les tomates, par exemple.
Alors là, ça tombe bien, parce qu'on est en plein dans la saison de la bayrou.
La bayrou, je la connais pas, celle-là.
C'est un peu comme la cœur de bœuf, une grosse boule toute rouge de la famille des légumes oubliés.
Oui.
On la mange plutôt au dessert, parce qu'elle a tendance à ramener sa fraise. Mmh, et l'avantage, c'est que vous n'avez rien à faire. À chaque élection, elle pousse toute seule pour essayer de se casser dans vos assiettes.
C'est intéressant. Voilà. Voilà. Et à part ça, il y a quoi d'autre ?
Bah, le haricot coco, le Mélenchon coco, le Philippe Poutou coco, et tout un tas de coco. Mais à consommer avec modération, parce que le coco, par principe, ça fait péter.
D'accord.
Regardez à l'extrême droite, ils adorent bouffer du coco. Oui. C'est pour ça qu'ils envoient autant les gaz.
Ok. Et pour finir, une herbe aromatique, par exemple.
Alors, une herbe aromatique. Oui. Alors, je vous conseille de vous ruer sur la coriandre parce qu'elle ne pourra bientôt, on pourra bientôt plus en manger.
Mais pourquoi la saison va s'arrêter ?
Non, parce que l'autre nom de la coriandre, c'est le persil arabe. Et si Éric Zemmour est élu, il la renverra chez elle. Alors, bon appétit à tous et
à la semaine prochaine. Vous le savez, Thierry Ardisson va faire son retour à la télévision sur France 3 avec une nouvelle émission « Hôtel du temps » dans laquelle, grâce au procédé du deepfake, il interviewera des personnalités du passé. Mm-hmm. Avec la mort de Jean-Paul Belmondo, Thierry Ardisson a d'ores et déjà tourné un numéro consacré à l'acteur disparu. En voici un extrait.
Salut Dédé. Salut les CD. Ce soir, dans mon hôtel du temps, je reçois un nouveau venu, Jean-Paul Belmondo. Salut ma poule.
Ah, déjà, tu vas apprendre à dire bonjour. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin.
Ah, ouais. Alors, Jean-Paul, qu'est-ce que ça te fait d'être mort ?
Monsieur Ardisson, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille.
Ouais. En même temps, t'en fais pas pour moi, comme je suis sur le service pupu, le service biblique, C'est les impôts des Français qui me payent.
Dis donc, comment on dit petit con dans ta langue ?
Aïe ! Tu m'as fait vachement mal.
Devriez, monsieur, me laisser tranquille. Vous êtes bien monsieur Ardisson, émission foireuse et ringarde ?
Ouais.
Jean-Paul Belmondo, acteur et châtaigne.
Aïe ! T'es con, tu m'as pété mon râtelier en marbre que Delphine Ernotte n'a pas fini de me rembourser.
Et quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent.
Ouais. Dis-moi Jean-Paul, au paradis, qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe que je vous emmerde, monsieur. Vous, votre affreuse émission de charognard et votre sale gueule.
Ouais. N'empêche que, fais pas trop le malin, parce que mort, t'as quand même l'air.
On dit pas mort, vous avez l'air, mais vous avez l'air mort. Si je vous dis, monsieur Ardisson, con, vous avez l'air. C'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français.
Ouais. Bon, la semaine pro, la semaine prochaine, la semaine chéchaine, nouvelle émission dans laquelle je pillerai le cinéma français.
Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur ? Un voleur, de temps en temps, ça se repose.
Ouais. En même temps, je force personne à me regarder.
Je sais que t'as pas forcé les imbéciles à te regarder. Mais t'en as perverti d'autres. Si on ajoute à ça tes questions cons, la drogue, les putes, ça fait une jolie carrière télévisuelle quand même. Tu vois, l'oubli que le public va progressivement t'offrir, c'est un peu la médaille du travail qu'on va te remettre.
C'est C'est dans l'actualité. Eh oui, comme vous dites. C'est dans l'actualité musicale de cet automne. Dany Briand revient enfin avec un deuxième volume de reprise des chansons de Charles Aznavour. Bonjour Dany Briand.
Ah bonjour, c'est Dany Briand. Bon été, la bohème. La bohème, tcha-tcha-tcha.
Mais bien sûr Dany, on se souvient parfaitement de vos reprises des chansons d'Aznavour en version, disons, plutôt tcha-tcha-tcha. Vous avez fait un carton d'ailleurs.
Ah non, j'en ai fait plusieurs des cartons. Je les ai emballés moi-même, mes disques dans mes cartons. Comme Suzette, aussi je l'ai emballé. Ah ouais, tout. Ah ouais, tout. Ah, j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison à chaque fois que je vois Suzon.
Tcha-tcha. Tcha-tcha. Revenons à votre second album des chansons d'Aznavour. Vous faites des duos cette fois.
Bah ouais. Parce qu'on dit toujours que l'Aznavour tout seul, c'est bien, mais à deux, c'est mieux.
Ah d'accord.
Oh, j'en étais sûr. Dès que j'ai le blues en tournée, il y a ce Denis Friant qui vient parler de ses duos. Mais moi aussi, j'en fais des duos à deux.
Mais ne soyez pas jaloux, Jean-Baptiste Guégan. On le sait bien qu'en tant que sosie vocale de Johnny, vous aussi, vous faites des duos. Vous travaillez avec qui en ce moment?
Aïe, aïe, aïe. Je travaille sur un duo avec un nouveau venu dans mon club des sosies vocaux.
Ah oui.
C'est Jean-Christophe Guay-Christophe.
Oh! Mais dites donc, ça c'est prometteur. Est-ce qu'on peut en entendre un extrait?
Oui. Ah. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule. Devant une phrase utile, il briserait l'instant fragile. De nos retrouvailles. Oh, de nos retrouvailles.
Écoutez, c'est si beau. Merci à vous deux et merci à Dany Briand.
Moi, je construis des marionnettes. Avec la ficelle et du papier. Ah ouais, tout, ah ouais, tout, trois, quatre. Et j'ai crié, Aznavour, pour qu'il revienne. Tcha, 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 tcha. Et ça a marché. Il est revenu dans mon nouveau Dixon.
Mais qu'est-ce que c'est que cette anarchie? Je ne sais plus qui est qui, ni comment, ni pourquoi, ni dans quel corps.
C'était Dany, le
oui,
dernier.
Mais si, j'ai bien compris quand même. Oh là là. Bon, alors merci beaucoup.
Merci.
Nous étions heureux de retrouver toute cette galerie de personnages.
Voilà.
On vous retrouve, vous, sur le site RTL.fr et nous avons rendez-vous dès demain matin, chers amis.
Eh bien oui.
À demain.
Merci à toutes les
deux. À demain, ouais.
Et Cyril Lignac est de retour avec nous dans un instant avec une... Ce sera un dessert aujourd'hui qui lui a été demandé à base de raisin. Voilà, à tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Mais bienvenue, cher Cyril Lignac.
Bonjour.
Christian habite, lui, au Puy-en-Velay. Il aimerait que vous l'aidiez à se lancer dans une recette sucrée à base de raisin. Tiens, c'est intéressant, ça.
Ce qui est génial, là, on va faire un clafoutis.
Ah oui.
Alors, le clafoutis, on a toujours tendance à le faire forcément à la cerise.
Bah, évidemment.
Aux pommes.
Oui.
Et on va le faire au raisin. À quoi ?
Abricots.
Abricots aussi, ouais. Délicieux.
Les raisins, je me dis, ça manque un peu de saveur ou un petit peu de personnalité. Donc là, c'est un vrai défi. Allez-y.
Alors, j'ai une petite astuce, Yves. On va y mettre un tout petit peu de kirsch. Comme ça, on va relever tout ça.
Je le connais, mon Cyril. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je savais qu'il allait nous amener quelque chose.
Alors,
allez, donnez-nous
on va prendre...
D'abord, on va beurrer le moule.
Oui. Après, on met 400 grammes de raisin. Alors, on peut choisir n'importe quel raisin que l'on aime. Les raisins blancs, les raisins un peu rouges. Les raisins que l'on aime, en fait.
Bah avec du muscat, ce serait extraordinaire.
Avec du muscat.
Quel plus de caractère.
Alors, soit on les épépine. C'est vrai que moi, j'aime bien les couper. Ah ouais, je suis un peu
obsessionnel.
Obsessionnel.
C'est votre talent, oui.
Et ensuite, je mélange 200 grammes de farine, 150 grammes de sucre.
Mm-hmm.
Je verse 25 centilitres de lait. Et là, j'ajoute 2 cuillères à soupe de kirsch. Alors, on peut mettre du kirsch, du rhum, tout ce qui va relever un peu le fruit. Vous avez raison. On fouette, on ajoute 2 œufs, on mélange. Et on ajoute les 25 centilitres de lait et les 2 œufs à l'appareil.
Très bien.
Donc, on mélange bien, ça nous fait une pâte. La pâte à clafoutis, c'est un peu comme une pâte à crêpes, en fait.
Oui.
Très liquide.
Ouais.
Et je me souviens, la première fois que j'ai fait ça, je me suis dit, mais... Il y a un problème, ça ne va jamais cuire. Et c'est tellement moelleux que ça cuit. Et là, on le met 45 minutes... Donc pas trop fort, à 180 degrés, et on le laisse cuire longtemps. Et là, on a les raisins, le kirsch, le moelleux, et on peut le manger comme ça.
Dites donc, un jour, vous me raconterez votre école de pâtisserie?
Oui, avec plaisir.
Parce que, oui, ça me passionne, parce que je vous imagine en train de découvrir les choses. Bon, alors, on peut vous demander conseil sur RTL.fr, et on retrouvera toutes les étapes de cette recette pour Christian, qui habite au Puy-en-Velay, et qui voulait qu'on lui fasse une recette sucrée à base de raisin. Mission accomplie, une fois de plus. À demain, cher
à demain.
Cyril. Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin avec Dominique Tenza.
D'abord, ce nouveau conseil de défense sanitaire autour du chef de l'État et cette question de l'allègement du pass sanitaire. Emmanuel Macron a laissé entendre ces derniers jours qu'il y était favorable au niveau local seulement et en fonction du taux d'incidence dans chaque région. L'hôpital de Mulhouse contraint de déclencher le plan blanc et d'annuler les interventions les moins urgentes en cause un déficit de personnel. Sur les 6000 salariés que compte l'établissement, 170, dont de nombreux soignants non vaccinés, ont été suspendus depuis une semaine, ce qui complique encore un peu plus le fonctionnement de l'hôpital déjà en manque de ressources. Le budget 2022 présenté tout à l'heure en Conseil des ministres, le dernier du quinquennat, et déjà l'opposition monte au créneau pour dénoncer les dépenses promises par Emmanuel Macron à 200 jours de la présidentielle, plusieurs milliards d'euros, et ce malgré la fin affichée du quoi qu'il en coûte. En Australie, un tremblement de terre de magnitude 5,9 a frappé cette nuit le sud-est du pays, faisant trembler les immeubles à Melbourne et sortir en courant les habitants paniqués dans une région peu habituée au séisme. RTL vous le révélait dès hier, la SNCF renonce officiellement au gigantesque chantier de la gare du Nord à Paris. La première gare d'Europe devait accueillir jusqu'à 300 boutiques en prévision des Jeux Olympiques. En cause notamment le dérapage du coût des travaux. 1,5 milliard au final contre 500 millions envisagés au début. Et puis le football ce soir avec la 7e journée de Ligue 1. Metz recevra le Paris Saint-Germain sans Lionel Messi, blessé, tandis que Lens accueillera Strasbourg à huis clos, sanctionné par la Ligue pour les débordements de dimanche dernier. 5 matchs programmés à 19h, 5 à 21h à suivre en fil rouge sur RTL.
Merci beaucoup Dominique, on vous retrouve avec plaisir demain matin.